Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 9e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Divan Ouest, le plus grand vendeur de mobilier de salon usagé de l'ouest de Laval.
Laval.
De toutes les places, sans pas d'allure.
Écoute.
Comment allez-vous, les gars?
Hey, ça va super bien.
Les gars, je veux dire, bien sûr, présent avec moi, Danny Gravel.
Salut.
Et Jean-François Laporte.
Présent.
Et moi-même, Mathieu Bonnet. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, les gars? On commence avec Danny.
Ben, de beau, je sais pas, mais j'ai fait des choses quand même.
Ça compte, ça compte.
Hey, je commence, Matt, direct même, là, à fret, avec...
Oh, punition.
Punition, à toi.
C'est ce que j'ai fait.
Hey, t'as comme... c'est mon petit côté prof qui ressort. T'as pas fait un retour. T'as dit, je vous reviens avec ça, puis t'as pas fait un retour sur le fait que Newton League Hockey...
est effectivement monté sur le moteur de NHL 94.
Voilà.
Voilà.
Fait que fallait que je commence avec ça, j'avais pas le choix.
Mais à coup de pas, puis tout.
Sinon, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai installé Battlefront. Puis à la place de jouer à Battlefront, j'ai joué à Dark Forces 1.
Ouais.
Tu sais, on aime le rétro ou on n'aime pas ça. Après ça, j'ai aussi arrêté de jouer à Dark Forces 1.
Combien de temps après, mettons?
Mettons 2 missions. Oh. Ça faisait mal un peu aux yeux, mais juste ça, je vis bien avec. Mais Colin, que le gameplay, il est ridicule, là. Je veux dire, à un moment donné, j'ai décidé, je vais essayer de faire l'émission avec des cheats juste pour les faire. Puis ça me prenait 3 jours faire une mission juste parce que tu tournes en rond, ça n'a pas de bon sens dans ce jeu-là. Là.
Ouais, mais...
tu sais, ça vient des vieux shooters, ça. Ouais. Ça vient, tu sais, on est encore proche de Quake, puis...
Avant Quake, pré-Quake. Mais non, quand j'ai acheté les packs de toute la série Jedi Knight,
c'est
tout
là que ça,
ça
vient.
Ouais, c'est ça. Quand j'avais acheté ce pack-là, j'ai un peu rejoué à toute la série, puis j'ai aucun problème à rejouer à Dark Forces. J'aime les maze-like, les tableaux qui sont très, très grands. Ça, c'est un côté que j'aime beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup plus de misère à jouer à Jedi Knight 2.
OK.
Parce que il commence à avoir un look très, très, très moderne. Visuellement, il est hyper beau. Mais les ennemis sont fucking dumb. Ça fait un clash énorme. Tu sais, j'accepte que le Stormtrooper dans Dark Forces, il se promène comme un imp dans Doom. Parce que... puis bon, c'est un Stormtrooper, anyway, mais les autres, ils courent comme des poules pas de tête. Puis c'est pourtant que c'est le plus récent, c'est le plus difficile à rejouer, j'ai trouvé.
Mais en fait, moi, c'est que le tableau, est-ce qu'il faut que tu ailles dans les égouts là, pour dans le troisième tableau, troisième mission. Je me suis tanné là, parce qu'à force de tourner en rond pour trouver les Asti Switch que je trouvais pas, j'ai fait comme ça, à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire. T'sais. Mais le jeu comme tel avait l'air intéressant, puis c'est juste qu'à force de tourner en rond pour faire la même chose, à un moment donné,
mais tu sais, c'est un jeu qui vient d'une autre époque. Là. C'est comme Hérétique, ces affaires-là. Là. C'est Accent.
Ça aussi, j'ai racheté ça pour pas longtemps, puis j'ai eu du fun au bout.
Mais c'est, non, mais c'est super le fun.
Puis à part ça, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai, un peu à cause de toi, joué à Techno Babylon. Presque fini le jeu. Vraiment le bon jeu. Tout à fait. Là, j'ai juste d'autres choses. Rien d'autre à dire. C'était écœurant. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais ce style de jeu-là. Tu sais, où est-ce qu'il faut que tu réfléchisses, t'as des puzzles, le point and click, là.
Ben, je l'avais aussi dans mon résumé de la semaine à parler, parce que je l'ai finalement complété. Puis tout ce que j'ai dit, c'est ça x10. L'univers était aussi exceptionnel. Les puzzles ont tous des moments écœurants.
Ah, vraiment,
tu te sens bon quand t'es réussi. Puis t'es jamais si aliéné que t'es comme, je comprends rien, puis je réussirai pas à le trouver.
Avec parfois un peu de dégoût.
Je vais parler de Techno-Babylon la semaine prochaine, mais dans 2 semaines au podcast.
Mais fais-le, s'il te plaît. Pogne-toi ça, fais-le. Il était
fini Jessica Jones ce matin sur Netflix. Puis sérieusement, le Marvel, là, chapeau pour les séries, les deux séries, mettons, là, sur Netflix, là, Daredevil puis Jessica Jones. Là. C'est génial. L'univers est tellement noir puis sombre, là, comme ça fait un beau clash avec, mettons, le côté cinématique de quand tu fais des gros films au cinéma, qu'il n'y a que de l'action non-stop tout le temps. Là. Il y a un petit côté vraiment le fun, sombre, puis qui monte un peu le vrai, un côté de l'univers de Marvel qu'on n'a pas vu à la télé. Là. Génial, j'ai adoré. Voilà.
T'as-tu commencé, toi, GF, Jessica Jones?
Je les ai toutes, mais j'ai pas commencé encore.
OK.
Moi, j'ai plutôt écouté Ant-Man, puis j'ai été moyennement déçu.
All right. Moi, j'ai fini Jessica Jones aussi cette semaine. Rien à rajouter, tout est là. Mm. Excellent.
Fait qu'on se pognera pas ça.
J'ai du rattrapage à faire.
Question de temps.
Hey, je sais pas si vous avez entendu parler du hashtag Friendship Moose sur Twitter.
Je l'ai vu passer, mais je sais pas trop ce que c'est.
C'est écœurant. World of Warcraft, dernière page qui est sortie il y a une semaine ou deux.
Ah, ok, c'est pour ça, je sais pas c'est quoi.
C'est pour ça que tu sais pas c'est quoi. On a amené un quest item qui drop du dernier boss, l'archimonde, quand tu le tues à la difficulté là, héroïque ou mythique, donc les deux plus difficiles difficultés, en tout cas. Mm-hmm. Je fais je fais comme
prends, si prends tous les mots, fais une phrase avec.
Je vais faire ça. Voilà. Je vois rien que ça dans 2 semaines. Bref, une quest qui est sortie là pour un boss qui était déjà là depuis l'autre page d'avant, qui disparaît à la prochaine expansion, fait qu'il est comme un peu sur un temps limité. Puis ça drop une monture finalement qui est très haute. Là. C'est un genre de gros mousse, hein, un orignal avec genre des trucs arcanes puis tout. Là. Il est vraiment hot. Puis faut que tu puisses tuer le dernier boss de l'expansion, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire.
OK.
Puis les gens ont fait comme, hey, on veut l'avoir pareil. Puis il y a un gars qui a parti le hashtag Friendship Moose en se disant, hey, on passe par Twitter, on se fait des groupes, puis on va le tuer. T'sais, ce qui n'est pas tout le temps facile parce que c'est le dernier boss, mais il y a tellement de monde qui ont embarqué. Il y a des gens qui ont fait comme déjà des dizaines, des centaines de kills de ce boss-là. Fait qu'il y a des groupes qui se forment. Puis j'ai décidé d'embarquer dans le bateau. J'ai réussi à me trouver un groupe, faire le kill, puis j'ai mon Friendship Moose. Mais le bout le plus fun, c'est pas tant que j'ai une monture dans un jeu que personne d'autre que moi ici joue, là. C'est en suivant le hashtag sur Twitter. C'est tellement drôle le nombre de personnes qui ont posté des photos d'eux autres dans un bar avec leurs amis, assis sur un divan, avec un autocomplete de hashtag.
Oui.
Au lieu de Marty, on lui met le hashtag friendship, puis celle-là, autocomplete ta friendship mousse.
Oh.
C'est écœurant, c'est de toute beauté, c'est ridicule. C'est trois dos de 16 ans sur un divan, là, hashtag friendship mousse. Je le mousse, moi. Là, c'est surtout pour ça que je voulais en parler, c'est ce bout de drôle de regarder le hashtag Twitter puis d'avoir du monde complètement random.
T'as aucun crise de rapport avec le friendship mousse.
Sinon... grosso modo, je finis avec notre petite soirée de cette semaine à moi et Mathieu. On est allé faire un tour, une deuxième visite à Arcane Montréal.
Mm-hmm.
Je me suis fait, comme je l'avais déjà prédit, je pense, sur le pod, démolir complètement à 2-on-2 Open Ice Challenge.
Wow, c'était plus symbolique d'être dans une arcade beat jouée, là.
Je pense que j'avais prévu 11-1 quand on en a parlé.
Quelque chose comme ça?
Ben, ça avait fini 18-7 finalement. Hein? Plus de buts pour moi que prévu. Mais on sait que dans les jeux d'arcade, quand tu tires de l'arrière, les buts se font tout seuls. Je tirais de la ligne rouge puis ça rentrait. Fait que j'ai pas trop de. Pas trop de mérite là-dessus. On a participé au tournoi de Tetris Attack.
Un petit peu reculon.
Un petit peu reculon, mais...
Il voulait vraiment que tout le monde participe. Là, je suis comme moi, mais je suis correct. Là. Je sens pas le besoin. Là.
Fait qu'on a beaucoup de monde?
Comment?
Y a-tu beaucoup de monde?
Trentaine?
Ouais, peut-être.
Trentaine? Non, avec, je veux pas partir dans cette direction-là, mais quand même un quart de filles. Ouais. Je sais que c'était gratuit pour les filles ce soir-là, mais je sais pas si c'est à cause de Tetris Attack, mais... Cool. T'sais. Toujours gratuit pour les filles. Mm-hmm.
Bon, ben, c'est intéressant. Ça donne un peu plus une proportion. Puis, tu sais, ça fait que peut-être que s'il y a un peu plus de filles qui se pointent, il y en a qui sont moins gênées de se pointer parce que, tu sais, on le sait, là, les filles puis le gaming, c'est pas tant qu'il y en a pas, c'est qu'il y a une espèce de.
Ils se sentent pas inclus.
Ils se sentent pas inclus. Puis, quand tu vois tout le gamer game, puis on comprend pourquoi.
Voilà.
Sans rentrer dans l'éditorial, c'était quand même intéressant. Je me suis fait sortir en deuxième round par notre ami Steve de Two Players Mode.
Mm-hmm. Qui avait sur place un Tetris Attack SNES Complete In Box à vendre.
Qui était toujours exactement prêt. Le même prix que le prix du tournoi. Hein. Fait que moi, pour vrai, avoir gagné le tournoi, j'aurais comme pris le jeu en me disant que c'était un pas mal plus beau trophée que de partir avec un petit montant d'argent. Fait que donc je lui attribue le titre de champion en titre de Tetris Attack de Saint-Félix-de-Valois.
Voilà. Vous étiez un gros contingent de Saint-Félix.
Ouais, ben quand même, là, c'est une bonne partie de la population. En pourcentage, c'est pas si mal.
2/17.
Ouais. Puis pour Mathieu, je te donne un petit...
Les acclamations de la foule.
Eh oui.
Mon Dieu.
Pour être rendu là, en demi-finale, finalement. Hein.
Eh oui, top 4.
Pour un gars qui voulait pas participer.
Oh shit.
Mais je dois préciser, là, c'est vraiment un concours de circonstances. Je suis vraiment pas bon à Tetris Attack, mais j'ai comme pogné des match-ups de monde aussi peu familier avec le jeu que moi, ou pire, qui avait jamais joué. Fait que j'ai réussi comme à squirmer mon chemin jusque-là, mais il y a du monde qui sont sortis d'un round d'avant qui m'aurait rincé, comme mon compétiteur de demi-finale. Les autres trois du top 4, mettons, là, c'était des fucking machines.
Ouais,
c'était des crises de machines.
Mais pour vrai, là, si c'est certain d'aller faire un tour, là, twitch.tv /Arcane Montréal, je sais pas s'ils l'ont changé, mais la vidéo s'appelait Mario Kart 64, là, pour une raison.
Non, il est renommé.
Ils l'ont renommé. Mm-hmm. Puis on peut aller voir toutes les games. Là. Je vous dirais que la finale vaut la peine. Puis si vous avancez jusqu'à 2h40, vous pouvez voir un petit bout de Star Fox 2, hein, joué par notre ami Mathieu ici.
Hey.
et notre ami Steve aussi de Twitter's Mode. Voilà. Ouais. Je finis avec un petit bout de mini-segment que j'espère ramener. On verra ce que ça donnera. Tiens, je vous donne le drop puis je vous le présente.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Donc, un petit Trudeau watch.
Je l'aime donc bien, ce drop-là.
Puis pour ceux qui n'auraient pas reconnu à la fin, c'est Trudeau père qui...
C'est pète.
Ouais, c'est qui... qui parlait de la loi des mesures de guerre. Bref, j'entrerai pas dans l'éditorial. Encore une fois, ça pourrait être long.
Éditorial.
Donc, dans mon segment Trudeau Watch, c'est pour faire suite à mon petit bout sur le Trudeau Maid de la semaine passée. Je me suis dit, je vais essayer de faire un suivi, tu sais, de regarder les barres de progression, voir s'il monte de level. Donc, 32 jours de fait dans son mandat, 4 promesses réalisées. Je pense que ça n'a pas changé. Une promesse de briser.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est la promesse des 20. Il avait promis en campagne électorale d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici le.
Fin de l'année.
Fin de l'année, avant 2016. Puis là, ben, ça a été repoussé un petit peu.
Bon, okay.
Mais quand même, en l'apprenant, il paraît que Richard Martineau et Éric Duhaime se sont blessés à la main en faisant un high five beaucoup trop fort. Donc, Trudeau Watch à suivre. Toi, Matt, nice. Ça va être cette semaine?
J'ai été beaucoup occupé avec des choses du podcast. J'ai ajouté Divan Quest sur YouTube. Tous les épisodes à ce jour et les prochains seront disponibles là. Ça a été un peu compliqué. Au début, YouTube nous avait flagué les épisodes 2 à 7, donc tout sauf le dernier, comme étant inapproprié de façon automatique.
Oui, il l'a pas écouté, parce que s'il avait écouté, on aurait compris.
C'est clairement inapproprié.
Ben c'est ça, mais justement, ça m'a fait un peu peur, parce que je me demande si Google est rendu avancé à ce point-là, qu'ils ont réussi à développer un algorithme capable de déterminer la pertinence si efficacement. Après, je me suis rappelé, anyway, qu'il y a tout plein de vidéos de monde en train de jouer à Call of Duty, fait que ça devait être une erreur. Puis c'est ça, après avoir demandé une révision, ben c'est maintenant tout disponible. Ils te reviennent même pas avec rien, là. C'est juste comme, bon ben, tes vidéos sont rendues là. Ils te le disent même pas, là. J'arrive dans le channel, puis hop, tout est là, c'est correct. OK, bonne journée. Mais on va faire un petit peu de shop talk, là, mais c'est un petit peu hallucinant, là. T'sais, on a pris un nom de podcast qui devait être fucking facile à trouver, là. Y a pas de conflit avec n'importe quoi d'évident, là. T'sais, Divan Quest, c'est ça. Mais t'sais, la juxtaposition des mots est assez peu commune.
Ah, quand même.
Le référencement, ça va être de même, là. Aucune difficulté. Ben non, Carlis, les divans d'examen médico-quest. Ben anyway, là, c'est quoi la big fucking idée, là? En quoi un divan d'examen et le mot quest vont ensemble? T'sais, c'est une grande aventure, une quête de faire un examen gynécologique, là? Madame, eussiez l'obligeance d'enfourner vos sabots dans les étriers que je puisse dévisager le vestibule. Ça n'a pas de stick de bon sens, t'sais. En tout cas, je suis pas sûr de leur choix de nom, mais bon, divan quest sur YouTube. Hein? On arrive 10-12e, là, c'est écrit sans un mot. Là.
Attends, mais... Les divans d'examen médicaux sont sur YouTube.
Calisque, oui, man. Il y a des reviews, puis il y a tout. Là, c'est...
Des reviews?
Ouais, en tout cas, c'est écrit Divan Quest, c'est plein de styles de divans, de watchage de snatch professionnel. Là. C'est hashtag watchage de snatch professionnel.
C'est important, professionnel quand même.
Ben là, écoute, non, mais c'est pas pour les loisirs. Là.
Mais non.
C'est du monde qui travaille. Ensuite, ben on est maintenant listé sur RZO. Mm-hmm. Le bêta public de RZO est disponible depuis le 27 novembre. C'est une plateforme de podcast franco-québécois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, malgré que j'ai l'impression que la grosse majorité des clics qu'on a viennent de là, donc ils doivent le savoir un peu.
Salut gang!
Hey! Mais pour l'instant, c'est ça, c'est surtout une agglomération de podcasts avec une petite belle interface.
Vraiment.
Puis on peut écouter tous les podcasts à même le site, puis récupérer tous les nouveaux épisodes, puis ils nous donnent comme un fil des plus récents épisodes. Puis le but, c'est d'être une plateforme sociale pour les écouteurs de podcasts au centre de l'expérience. Bref, on favorise le côté social puis interactif, plutôt que d'être juste comme une plateforme pour ceux qui le font, qui font les podcasts. Fait que ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, fait que je vous invite à aller visiter RZO au rzoweb.ca.
Bonne question. Je te vérifie ça maintenant.
Merci. Et découvrir plein de beaux podcasts québécois. On est bien content que Divan Quest soit dessus, évidemment.
.com.
C'est ça que j'avais écrit pourtant. Fait que rzoweb.com. On est content d'être sur la plateforme, évidemment. Puis, on va l'utiliser comme point de contact principal maintenant. Fait que surtout quand les autres features vont être en place, ça va nous favoriser la communication avec les gens qui nous écoutent. Donc, on encourage énormément ce projet-là. Fait que allez-y, vous autres aussi, puis montrez votre intérêt si vous aimez les podcasts québécois.
Ouais, ça permet de découvrir des trucs. Là. Moi, j'en ai écouté que j'avais pensé même pas qu'ils existaient. Fait que c'est vraiment le
fun. Voilà. Fait que justement, moi, j'ai découvert Trois Bières que je t'ai suggéré. Voilà. Super drôle. Encore une fois, c'est un des plus gros podcasts québécois, ce qu'on me dit. Fait que je suis juste en retard, mais c'est grâce à ça que j'ai quand même découvert. Puis j'ai 3-4 épisodes d'écouter déjà. C'est super le fun. Puis Parlons Balado, un podcast sur les podcasts, bref, de la podcastception. Mise en abîme, c'est la version propre d'un gag déception. c'est ça, fait que Parlons Balado, qui est peut-être un peu plus, encore une fois, shop talk, là, plus pour ceux qui en font que c'est intéressant, mais ça fait découvrir aussi, puis il y a des petits tips techniques qui passent là-dedans. Donc voilà. Puis j'allais parler de Techno Babylone dans ma review de la semaine, mais on l'a déjà fait que hey, vive Techno Babylone, c'est le fun.
Vraiment.
Jeff?
Hey, écoute! Je sais qu'on est aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, on est le 5 décembre. Il fait en haut de 0 degré, quelque chose comme 4 ou 5 degrés. Ça semble vraiment pas au mois de décembre, ça semble vraiment pas à l'hiver qui s'en vient, ni à Noël. Mais, fin de semaine passée, ben, j'ai monté mon sapin de Noël.
En costume de bain, c'est ça?
En costume de bain, non, mais...
Mais en G-string.
C'est étonnamment toute une épopée d'essayer de monter un sapin de Noël avec un petit garçon de 2 ans qui veut jouer avec tout. Puis là, tu mets ta boule là. Puis non, papa, va pas là, la boule avant en haut. Fait que là, ça a pris une soirée complète, juste pour mettre des boules.
Ah, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on remette l'enregistrement.
Pour le décaler aussi. J'étais pris dans mon sapin, là, avec les lumières partout. Puis, mais c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de compenser le manque d'ambiance de temps des fêtes qui s'installe au Québec en ce moment avec un sapin dans mon salon. Fait que, j'ai un sapin dans mon salon.
Mission accomplie.
Mission accomplie. Ça fait pas notre temps en plus comme Noël, mais ça.
c'est ça. Quand tu passes dehors, tu vois, c'est ça. J'ai l'air de quelqu'un qui fait son sapin avant le mois de décembre, puis là, vous pouvez me juger.
Ben, c'est fait.
C'est ça. Fait que,
je te juge quand même moins que les gens qui ont décidé que de faire venir le Père Noël au genre métro de Saint-Félix le 26 novembre était une bonne idée.
Ah, OK.
C'était l'arrivée. Oh, il fait juste passer pour la journée.
Ah, oh, oui.
Ah, OK.
C'est ça. Mmh, okay. Fait que toi, je te juge moins que d'autres.
C'est ça.
Ben, c'est Saint-Félix, tu sais.
On va leur donner une pénalité.
Sinon, ben, c'était il y a eu la bêta de Rainbow Six Siege.
Peu avant la sortie.
Fin de semaine passée, peu avant la sortie, qui a eu des problèmes, mais j'en reparle tantôt. J'en reparle dans mon segment tantôt. Donc, je ne mettrai pas plus de gaz là-dessus. Et je pense que le highlight de ma semaine, ben, c'est d'avoir vendu mon âme pour la seconde fois en quelques années. Donc,
T'avais-tu comme un crédit dessus pour faire un autre investissement? Parce que la vente deux fois.
Ça... Non, j'avais racheté au Boxing Day l'année passée.
T'as-tu des pogs de Alf?
J'ai vendu mes pogs au marché aux puces, puis j'ai acheté mon âme.
Vendu mes pogs à Two Player Mode au marché aux puces, toi bleu, à Saint-Félix.
Ben non, pour vrai, ben, je me suis racheté un iPhone. Fait que j'avais une. Bon, on a eu plusieurs discussions sur la valeur de la gestion de la batterie et de la mémoire d'un Android, puis ça commençait à me taper sur les nerfs, puis j'avais un vieux téléphone. Puis, ben, on dira ce qu'on voudra de mon employeur. mais il y avait quand même une offre intéressante avec un iPhone à 0$. Fait, c'est un fou d'une poche, ça ne m'a rien coûté. J'ai un iPhone, c'est super cool. Et je dois avouer que le meilleur des deux mondes, c'est clairement le hardware de Apple sur un iPhone. Puis tu prends toutes les apps d'Apple, tu les enlèves, tu les remplaces par toutes les apps de Google. Ça fait un super bon environnement. Mon téléphone fonctionne super bien. Puis j'ai fait un bon move. Finalement, je suis quand même satisfait.
Content que tu sois content.
C'est ça. Voilà. Donc, j'ai plus d'âme, mais j'ai un beau téléphone.
Non. En même temps, je pense que acheter un téléphone, c'est vendre son âme, peu importe à qui tu l'achètes. Là, fait que...
Ouais, c'est temps-ci, c'est sûr. Bon,
partiras pas là-dessus. Hein?
Non, non.
Voilà. Autre chose?
Ça fait le tour de ma semaine. Grosse semaine occupée. Ouais.
Alors, cette semaine dans l'actualité, on a eu une entrevue accordée au Washington Post par M. George Lucas. M. Lucas étant le créateur de Star Wars, je précise, au cas où vous soyez quelqu'un qui vient de passer derrière la personne qui est en train d'écouter le podcast et que ma voix sensuelle a attiré votre attention. Vous ne seriez pas les premiers ni les derniers. George Lucas aurait avoué s'être tenu à l'écart des internets ces 15 dernières années, que ce soit Twitter, Facebook, même les emails. Il a également comparé la vente de sa compagnie Lucasfilm et de Star Wars à un divorce. Pour tenir cette métaphore jusqu'au bout, là, c'est intéressant que ce soit celui qui a enclenché la procédure de divorce, puisqu'aux yeux des amateurs de Star Wars, il semble plutôt s'agir d'une histoire de diffamation et de violence conjugale. il dit toujours pas avoir vu une seule image du nouveau Star Wars, mais qu'on vient l'écouter dans son cinéma personnel au Skywalker Ranch.
Yep.
Oui.
Il n'est pas sorti comme hier matin ou ce matin, comme quoi il l'aurait vu puis il l'aurait aimé.
Ah, OK. Ben, en date de quand on était supposé faire le podcast, c'était pas fait.
OK.
On s'en reparle au prochain pod. En continuant sur sa lancée, il a même dit que ça allait être comme voir son ex se marier. De son côté, Star Wars a entamé des démarches pour demander une injonction contre M. Lucas. On attend avec impatience la décision des juges. on a du nouveau dans le Konami Watch. Alors, lors du Game Awards. Je parle.
Pour ceux qui ne savent pas, on essaie d'upgrader nos drops un peu, démodifier, mais on ne se fait pas entendre avant le pod. D'où les réactions.
Voilà. Lors du Game Awards 2015, qui était jeudi dernier, Metal Gear Solid 5 a gagné le prix du meilleur jeu dans la catégorie Action-Aventure. Kiefer Sutherland, l'acteur canadien qui fait la voix de Snake dans Metal Gear Solid 5, est monté sur scène pour accepter le prix en l'absence de Hideo Kojima. mais pourquoi Kojima-san n'était-il pas présent? On a une réponse assez vite quand l'animateur de la soirée, Jeff Keighley, a pris la parole pour nous annoncer que Konami a interdit à Hideo Kojima d'être sur place pour recevoir le prix, puisqu'il était toujours sous contrat avec la compagnie. Bon, j'ai déjà fait un gag de violence conjugale dans l'épisode, là, fait que je vais m'en tenir à ça. Mais par contre, je vais donner une mention spéciale à un autre moment de la soirée. Après un montage, ils ont payé hommage à Satoru Iwata, le président de Nintendo of Japan, qui est décédé cette année. Ils ont fait un montage très, très émotionnel qui présentait sa carrière avec des highlights, puis ont invité Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo of America, à rendre hommage à son patron et collègue. Fait que je vais vous faire jouer l'extrait, je pense que ça parle par soi-même.
To tell you more, about Satoru Iwata, please welcome the president of Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé.
Mon Dieu, Seigneur! Et on aime ça, le respect, hein?
Fait que c'est excessivement respectueux. J'aimerais dire bravo au responsable de la direction musicale de l'événement. C'est ça.
Écoute, hein? Fait qu'on va rendre hommage à un mort.
C'est un petit peu... C'est ça que c'est. Hein?
C'est ça, ça que c'est.
Quelqu'un qui a perdu sa job ce soir-là.
Alors, dans les autres nouvelles, si on en croit le blog japonais Mako Takara, Apple serait en train de préparer un nouveau iPhone. T'as l'écoute, GF, d'accord? Sans prise d'écouteurs.
Ah! Oh.
Cette décision viendrait appuyer les efforts d'Apple de créer un téléphone encore plus mince. Une autre décision qui semble mettre à l'avant un but qui rend service à personne, sauf Apple. Appareil plus mince signifie batterie moins volumineuse, donc moins longue autonomie, et ne laissant comme seule interface sur l'appareil une prise dont Apple sont les concepteurs et contrôlent tout ce qui s'y branche. Ça ressemble un peu, beaucoup même, au move des MacBook Pro, les portables soi-disant professionnels avec un seul port, qui est un USB non standard qui sert aussi à charger l'appareil. Là, vous attendez le punch de la joke, là. Il y en a pas. La seule, c'est ceux qui vont acheter ça, même si c'est vrai.
Ouais.
Comment vendre des dongles pour pouvoir brancher tes écouteurs dans la petite prise?
Puis que tu peux pas charger ton téléphone en même temps.
Ouais, c'est ça.
Ben là, GF, en passant, si tu veux aller prendre une bière, je pense que c'est le temps. Parce que le magazine Les Affaires rapportait que le président actuel de Québécois, M. Pierre Dion, a affirmé lors d'un discours prononcé devant le Cercle canadien de Montréal... par rapport avec les Canadiens de Montréal, là. OK. il a affirmé que Netflix devrait financer les réseaux de télécoms du Canada, puisqu'ils profitent gratuitement de l'architecture dans leur modèle d'affaires. Selon M. Dion, Netflix monopolise 34% du trafic de download en aval, pas de joke d'aval, s'il vous plaît, sur les réseaux à large bande au Canada. Il dit que cette situation est problématique et concerne tous les acteurs de l'industrie et les consommateurs. C'est un petit peu dur de trouver une analogie qui représente un peu le propos de M. Dion. C'est comme demander à Honda de financer les routes parce que leur véhicule passe dessus, ou de demander à Levi's de financer mes repas parce que si je mange de la scrap et je rentre plus dans mes jeans, ben va falloir que j'en achète d'autres. C'est comme dépenser 33 millions pour faire bâtir et être gestionnaire d'un amphithéâtre et demander aux contribuables de payer les 400 millions restants.
Mettons. De même, hein?
Donc encore ce vendredi, pour passer à d'autres choses, vite.
Non, c'est rien.
Je vais juste dire qu'il ne se rallie pas à aucun des propos tenus dans ce podcast.
Il ne commentera pas.
Je les connais pas, ces deux gars-là.
Vendredi dernier, lors du fameux Black Friday, mais sans importance à ce moment-là, la fondation Raspberry Pi, créatrice des mini-ordinateurs très abordables du même nom, a annoncé leur nouveau produit, le Raspberry Pi Zero. Un circuit imprimé plus compact, avec moins d'options de connectivité et une performance un peu inférieure au Raspberry Pi 2, mais tout de même significativement plus performante que le Raspberry Pi 1, en vente pour seulement 5$ américains, par rapport au Pi 2 qui tourne autour des 35$ américains. Tellement peu dispendieux qu'ils le donnent même avec leur magazine officiel Magpie en Angleterre.
On aime ça.
Effectivement, ce nouveau produit de la gamme Raspberry Pi devrait introduire plusieurs nouveaux fans à cet univers. Ces nouveaux enthousiastes pourront eux aussi connaître la joie d'installer des systèmes d'exploitation permettant de jouer à des jeux rétro, d'installer des versions de Linux adaptées, de jouer même à une version limitée de Minecraft, de mettre le Pi sur une tablette dans leur garde-robe après 2-3 jours pour ne plus jamais y toucher. Le futur semble très excitant. Et parlant de Black Friday... j'ai été visiter le site Black Friday Death Count, un site qui catalogue les blessures et les morts rapportées dans les médias survenues lors des Black Friday à travers les années. C'est un peu morbide, là, mais sachez qu'il n'y a aucun décès qui a été rapporté sur le site depuis 2013, mais le bilan s'élève depuis 2006 à 7 morts et 98 blessés. Aucune donnée n'a été recueillie pour cette année. Peut-être que le gars, c'est juste tanné de le faire. Mais cela dit...
Qui est mort écrasé.
Ça serait une fin très, très poétique.
Ben, c'est aussi ironique que de mourir sur un Segway pour le gars qui l'a inventé.
Ouais, mais ça, c'est pas vraiment pas ça.
Ouais.
C'est un investisseur.
Oh.
Ce n'est pas le créateur du Segway, qui est toujours très vivant. mais je l'ai dit, en analysant les données fournies, le journal britannique Daily Express a déterminé qu'il était plus probable de mourir un Black Friday que par une attaque de requin. Le tout ne fait que confirmer mes recherches très exhaustives qui cherchaient à prouver qu'un banc de requins qui sentent du sang est moins dangereux qu'un troupeau de Walmarteux qui flaire un four à gaufre à 7$. Alors, c'est tout pour l'actualité de cette semaine.
Kiss my ass. Ça, c'est pour toi.
C'est fou ce que deux semaines peuvent faire à la qualité audio, hein? C'est...
Il s'est passé quelque chose.
Ben, des traitements contre l'emphysème aussi.
Ils font des pilules pour ça. Hein?
Fait que Rainbow Six Siege, que j'ai eu la chance d'essayer. J'ai pas
que j'ai eu la chance de mettre la main sur le bêta. C'est la première fois depuis des mois, je dirais tellement des années, que j'ai joué un shooter sur PC. Donc, j'ai abandonné mon divan et mon PlayStation. Je suis retourné vers ma souris et mon clavier. Je suis retourné à ça. Mais moi, je me suis rendu compte que mon ordinateur était clairement passé date pour gamer. Donc, après avoir pu observer la splendeur de Rainbow Six à low sur toutes les graphiques, c'était quand même intéressant comme jeu.
Mais il est pas bien beau.
Il est beau quand je regarde sur YouTube, mais quand je regarde sur mon ordi, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. C'est la même chose.
Ou qui se passe pas.
Ou qui se passe pas. Ce qui est important, c'est que, ce qui est important de savoir, c'est que j'ai toujours été fan de cette série-là. Je pense que Matt aussi, t'as beaucoup joué à la série. Mm-hmm. Puis moi, je suis vraiment fan de cette série-là depuis que le roman était sorti, en fait. Les deux romans Rainbow Six qui ont parti cette histoire-là, les romans de Tom Clancy. Donc, suite au roman, il y avait le premier Rainbow Six avec Rogue Spear, qui était vraiment un petit peu top-down, plus tactique. C'est totalement un autre style de jeu. Et ce que j'aime de Rainbow Six Siege, c'est qu'on ramène un petit peu le côté tactique qu'il y avait un petit peu avant, un petit peu plus, où là, faut que tu réfléchisses. Tu peux pas juste rush in puis tirer tout le monde. Tu ne fais pas long feu si c'est ça que tu fais. La prémisse du jeu, c'est qu'après plusieurs années de ne pas avoir fonctionné, en fait, le programme Rainbow Six a été réactivé par un nouveau dirigeant qui est seulement connu sous l'appellation de Six. Qui est voici par une certaine Angela Bassett. Et en fait, les joueurs vont jouer des opérateurs de l'équipe Rainbow Six pour faire face à un nouvel ennemi qui menace le monde, qui se font appeler The White Mask. Et leurs buts sont inconnus, mais ils créent du chaos un peu partout, donc il faut les arrêter. Assez by the book. Puis l'histoire va pas plus en profondeur que ça, parce que ben, y a pas de campagne solo, il y a pas d'histoire au jeu, c'est simplement le jeu en ligne. La seule version solo que tu peux jouer, c'est le retour des Terrorist Hunt, où tu joues avec d'autres joueurs contre les ordinateurs, contre les CPU, les bots.
Comme on avait dans la série Vegas.
Comme il y avait dans Vegas. Rainbow Six Siege, ça se veut le successeur, puis je trouve ça un petit peu drôle de faire un successeur à ça, mais à Rainbow Six Patriots. qui a été cancellé. Donc, c'est le successeur d'un jeu qui a jamais vu le jour.
Logique.
C'est tout logique. au niveau du gameplay, okay, graphiquement, j'ai pas pu être un bon juge de quoi il y a de l'air, mais vous pouvez constater vous-même sur Internet, le jeu est quand même très, très, très beau là, quand vous avez une machine décente. Au niveau du gameplay, c'est super intéressant. C'est vraiment le côté tactique, le côté où on s'infile. Les maps, j'avais peur que les maps soient trop petites parce que tout se passe dans une maison, dans un entrepôt, dans un bateau. C'est vraiment des endroits clos, rapetissés. Fait qu'il y a pas, on est loin de Battlefield, là. Tu vas pas te promener en jet autour, puis on s'en tient à l'action.
Tu peux te promener en jet autour, mais il se passe rien.
Ben, y a pas de jet, tu peux pas.
Il n'y en a pas dans l'univers de Rainbow Six, ça n'existe pas les avions.
Non, oui, mais ils sont tout le temps arrêtés, puis tout le temps les terroristes dedans. si je m'en avec ça. Non, c'est ça. Fait que les maps sont petites, mais il y a quand même tout le temps beaucoup d'environnements autour où il n'y a pas d'objectif, mais ça te permet de te déployer. Fait que, si tu as un rôle qui est plus sniper, tu peux quand même te trouver une autre maison ou te percher à quelque part pour avoir une vue sur une fenêtre ou quoi que ce soit. Le jeu mettait beaucoup, beaucoup de l'avant la destructibilité. Mm-hmm.
De l'environnement.
Entre autres, tu peux mettre des C4 sur les murs, sur le plancher, tu peux détruire l'environnement pour prendre l'ennemi par surprise. J'ai été extrêmement déçu par ce feature-là dans le jeu.
Là, on vient d'avoir un appel de Greenpeace parce que tu as parlé de détruire l'environnement. Là.
Détruire l'environnement dans un jeu vidéo.
J'ai un autre appel, Steven Harper qui veut t'engager.
Non, mais donc, j'étais très, très, très déçu par cette mécanique-là. Parce que la façon dont c'était présenté, c'était tu peux faire des trous dans tout. Puis tu peux rentrer dans les pièces par où tu veux. Puis c'est vraiment présenté comme ça quand on regardait les démos au E3. Puis ça, je vais arrêter d'un des coups sur mon... Je vais arrêter de gesticuler, comme ça, je vais arrêter de frapper mon micro en parlant.
Les règles de violence conjugale, ils ont été faites tantôt.
Donc, c'est ça. En réalité, dans le jeu, c'est extrêmement limité les endroits où tu peux placer les explosifs pour rentrer. Tu sais, les portes, en ce moment, fait juste la rouvrir ou... tirer à travers, tu vas la démolir.
Dans le fond, ils mettent comme feature que tu peux tout détruire, mais tu peux vraiment pas tout détruire.
Tu peux vraiment pas tout détruire. Mmh. Puis les endroits où tu peux détruire paraissent vraiment, tu sais, tout ton plancher, puis dans le milieu du plancher, il y a une trappe en bois. T'sais. Elle est toujours placée à un endroit super, super, tu sais, tactique, qui fait en sorte que l'ennemi va pouvoir rentrer et te prendre par derrière.
T'sais. Il y a un mur en briques avec des grosses craques comme dans Zelda. Là.
Les murs en briques, tu peux jamais les faire exploser. Ils ont tout le temps un look différent, puis tu vois clairement le pan de mur qui est différent.
Ils sont toujours
reste.
En stucco, puis tu as juste le goût de décrire ça un peu quand t'en vois un.
Fait, finalement, ce jeu-là qui se vantait d'être un petit peu comme d'avoir la liberté de te prendre comme tu veux au niveau tactique dans ton infiltration, il y a beaucoup, beaucoup de points d'entrée. trop pour que ça soit possible de se défendre, mais sont quand même, tu vas rentrer par où les concepteurs ont voulu. Tu on est très très loin, par exemple, de Red Faction où on pouvait tout détruire, faire des trous, faire creuser dans le sol, faire des tunnels. On est très très loin de ça. Ça m'a déçu un petit peu. Le côté tactique est quand même super intéressant. Le gameplay est tight. C'est super le fun qu'ils ont remplacé tout le concept de classe puis d'évolution par des personnages. Donc maintenant, tu joues pas, t'es pas le soldat ou t'es pas l'opérateur ou t'es pas le sniper, t'es Ivy ou t'es John quelque chose. Ou t'es, ils ont tous des noms. Oh, okay. Ils appartiennent tous à des vraies forces armées, à des vraies escouades tactiques du monde avec le GIGN, le SWAT américain, le... Ils viennent pas à l'esprit comme ça, mais c'est des vrais, ils viennent de vraies escouades, ils ont tous des petites bio qui expliquent dans quoi ils ont étudié, puis pourquoi ils ont tel gadget, telle chose.
Vu que le jeu n'a pas d'histoire, il y a du backstory à la place.
Il y a du backstory autour des personnages, ce qui donne un petit peu, il glorifie un peu ces héros-là, puis ça en fait un peu comme le penchant un petit peu héroïque, moderne, de au lieu d'être un Zelda, par exemple, ou d'un chevalier, ben là, c'est un opérateur de Rainbow Six qui, lui, va aller pourfendre le méchant terroriste.
Mais ça doit être un petit peu pour sur la lignée que ça vient quand même d'une série de romans où les personnages sont très, très importants.
Oui, oui. Définitivement, sauf que là, on est des années dans le futur du roman, fait qu'il n'y a plus aucun des personnages qu'on a rencontrés avant qui sont là. C'est tous des nouveaux personnages. C'est quand même intéressant. Ils ont tout le temps des petits bio qui est cute ou qui est le fun. Puis, selon qui tu prends, ils sont habillés différemment, ils ont un look différent, puis ils gardent comme tout leur petit côté personnel dans l'équipe quand tu joues. C'est le personnage que je jouais, c'est une fille, elle va se promener dans des espadrilles roses puis des jeans. Puis elle va combattre les terroristes en espadrille rose, pas en jeans. Fait que, elle a quand même sa personnalité. Puis, ils refont pas ton look pour te mettre par équipe. T'as vraiment, c'est le personnage, okay. Et c'est lui que tu joues. Puis, si tu choisis un personnage, personne d'autre peut le prendre dans l'équipe. Fait que, t'as jamais deux fois logique. Le même opérateur qui va être dans le jeu. Fait qu'il vient un petit côté de stratégie où, ben, moi, je prends lui, toi, tu prends lui. Parce que, où on va savoir contre qui on joue, qu'on peut s'adapter. Fait que, pour du gameplay, pour éventuellement, peut-être, du e-sport, quelque chose comme ça peut être intéressant. Il y a une profondeur à ce niveau-là. Là où j'ai eu un malaise quand j'ai joué à ce jeu-là. Peut-être que... Puis en fait, ça fait comme une semaine et demie de ça. Ça fait une semaine et demie que je réfléchis à ça. Et cette semaine, Dominique Carpin en a parlé à la télévision. Il a parlé de Rainbow Six. Puis il est venu comme à la même réflexion que je me suis fait, en fait. C'est un drôle de moment. Il ne pouvait pas le savoir. Puis tu ne pouvais pas le prévoir. Mais c'est un drôle de moment pour amener un jeu comme ça sur le marché après tout ce qui s'est passé à Paris. Ouais, tout ça. Ouais. Puis en fait, tout ce qui se passe de plus en plus dans les derniers mois, les dernières semaines. Et jouer contre le mode terroriste on, c'est un petit peu moins... Ça me dérangeait moins. C'était plus facile d'accès. Tu joues contre des ordinateurs, puis ils sont un petit peu dumb. Fait qu'ils font juste te foncer dessus. Puis bon, sauf que ça reste, tu sais, sur des terroristes quand même. Ça met un peu dans ce concept-là. Là où j'ai vraiment eu un disconnect, puis... En fait, je l'ai presque pas fait. Je l'ai ouvert, puis j'ai rapidement comme abandonné. C'est le mode quand tu joues en ligne contre d'autres joueurs, où là, une équipe et les terroristes. Et c'est des joueurs qui jouent terroristes. Puis j'ai trouvé ça hard parce que dans les prises d'otages, ben, elle a l'otage. Tu peux la coucher à terre, tu peux la trimballer, le gun s'attend, tu peux t'en servir comme bouclier pour avancer contre Rainbow Six, en fait. Puis.
Tu sais, ce qui s'est toujours fait dans ces jeux-là depuis toujours. Ouais, sauf que là, le timing fait que c'est.
Ben, c'est ça. Je trouvais que c'était comme.
Ben, puis c'est très, très direct. Là. C'est pas juste comme tu pointes dans le coin de la salle, tu fais comme move there. J'en sais pas.
Ouais, t'es pas comme Counter-Strike, là, le premier ou est-ce que.
Ouais, c'est ça.
Non, j'avoue que.
Puis là, c'est personnel. Ils sont pas juste dans des coins, puis ils bougent pas, il faut que t'es protèges. Non, mais tu veux le changer de place. Il ramasse par le cou, il y a garoche à terre, il y a traîne, puis je suis comme, ouf, c'est un petit peu rough. Peut-être que le ton était pas approprié à l'époque à laquelle on est présentement. Je trouve ça un petit peu difficile. Mais ça reste un... C'est sûr que si je repense à des jeux comme un Halo ou un Destiny, ou ça reste un shooter, ça reste des armes quand même, mais tu tires sur des créatures étranges qui n'existeront jamais, puis... Il y a souvent un thème dans ces jeux-là, dans Destiny, dans Halo, tout ça, où c'est comme la race humaine qui s'unit pour survivre à l'envahisseur. Fait qu'il y a un thème d'unité un petit peu qui est vraiment pas présent dans Rainbow Six, où c'est vraiment... C'est les Américains, les Français, les Allemands, puis les Anglais contre le groupe terroriste qui menace la liberté et tout ça. C'est un petit peu, maybe, too close to home.
Mm-hmm.
Donc, quand même un excellent jeu. Que si vous êtes fan de la série, si vous cherchez un shooter tactique Puis c'est vraiment quelque chose qui vous manque, parce que le petit côté arcane peut-être de Call of Duty, ce jeu-là, c'est pas quelque chose qui vous accroche. Vous voulez quelque chose de plus tactique. Et vous avez des amis, parce que vous n'avez pas d'amis, l'expérience est beaucoup diminuée.
Si vous avez pas
d'amis, ben, désolé.
Désolé, ça,
c'est pas... L'expérience du jeu ou de la vie?
Les deux.
On s'excuse.
Mais c'est vraiment un jeu qui gagne à être joué en équipe avec des gens avec qui on peut communiquer. Mais c'est un excellent shooter tactique. C'est super le fun. Mais si, comme moi, vous avez un relent de conscience sociale, ben, peut-être que vous allez être un petit peu mal à l'aise de jouer. Donc, en gros, c'est ce qui concluait mon expérience avec Rainbow Six cette semaine.
Donc, aujourd'hui, dans l'univers d'Ivan Quest, donc la date où le podcast devrait être disponible, le 7 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? On recommence encore une fois, là, comme dernièrement, assez loin. 1869, on dirait que j'ai comme une thématique avec ça. Le bandit américain Jesse James.
Un autre bandit.
Je sais pas ce que j'ai avec les bandits américains.
Toi, petit mot du fantasme.
Ouais, ça, ou je suis dû pour écouter Back to the Future 3. Donc, Jesse James fait son premier vol de banque. Semblerait qu'après son arrestation, le gouvernement l'a engagé pour gérer les finances publiques éditoriales. Au niveau des naissances, encore une fois, là, des gens qui ont beaucoup de liens ensemble. 1928, Noam Chomsky, un activiste socialiste anarcho-syndicaliste. Bref, j'ai pas de joke à faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Très joyeux anniversaire, monsieur Chomsky. 87 ans aujourd'hui. 1976, Georges Larac. J'ai absolument rien à dire sur monsieur Larac. C'est moi, un doute de 6 pieds 3, 275 livres.
Qui mange pas de viande.
Qui mange pas de viande. Quoique, il joue hockey maintenant en Norvège, fait que peut-être que je peux faire des jokes finalement.
Ouais.
Mais j'en ai pas.
Révolu que tu y penses avant.
Ouais, je pense. Ben, non. C'est écrit. Là.
C'est... Ah oui, c'est vrai, excuse.
Gaming, 1983, baseball au NES. Bon, c'est la version au Japon. J'avais dit que je me simplifiais la vie avec les versions américaines, mais Colin, j'ai beaucoup trop joué à ce jeu-là.
Aucune constance.
Je sais bien.
Rigueur!
OK. Donc, beaucoup trop joué à baseball au NES avec le chum à ma cousine.
Sur une cassette 31 jeux pirates, là.
Possiblement.
Ouais. En tout cas, moi, c'était ça. Jouais beaucoup.
Puis un petit shout-out à mon ami Max, là, qui est supposé écouter le podcast. Fait que je vais voir s'il l'écoute, il va pas me le dire. Que j'ai démoli 11 à 1 en deux manches la dernière fois qu'on a joué.
C'est là qui vient, le 11 à 1.
C'est là qui vient, le 11 à 1.
En deux manches.
Ouais. C'est n'importe quoi. J'ai dit, j'ai trop joué. Je sais pas que je suis si bon que ça. J'ai beaucoup joué, puis lui, il avait comme pratiquement jamais joué.
Bon, tu finis de te vanter.
Non.
OK.
Ben oui. Ben en tout cas.
C'était-tu vanté ou c'était écrit, ça aussi?
Non, ça, c'était pas écrit. Ah, je okay. Fais ça naturellement. Tu m'as tout appris. 1998, un jeu dont on a parlé. Hein? Rogue Squadron 3D.
Hey!
Oh yeah!
Donc, pour toi seul, là, Mathieu. Uh-huh. En 2000, Heroes of Might and Magic 2. Au Game Boy Color.
Oh, Chris, qui est terrible.
Pour vrai, j'aimerais ça l'essayer. J'ai beaucoup joué à la version PC. Il faudrait que je l'essaie. Je sais que ça ne peut pas être vraiment hot, mais...
Ben, il coûte pas cher. Okay. Ça t'intéresse. Est-ce pas cher?
Ouais, à voir. Encore en 2000, un autre jeu dont on a un peu parlé. Hein? Je me demande juste si t'es capable de le reconnaître.
Oh yeah! V3! On parle de Gutter Freaks?
Gutter Freaks! Gutter Freaks Drummania, là, la version 3. Ben, je pense que c'est Gutter Freaks 3 puis Drummania, probablement le 2. Là, il y a une version.
Version
pense,
PS2?
Version PS2 au Japon. Hein,
c'est ouais, sûr. C'est ça. Ben, il est juste sorti au Japon.
Il est juste sorti au Japon.
Puis, ouais, à partir du PS2, ça a toujours été les versions combinées avec Drummania.
Voilà, donc 2000.
J'espère ici.
Ben oui, mais c'est pour ça. Hein. En fait, on est dans une journée pour toi, si je continue ça. Là. 2001, Megaman X6 au PS1.
Ouais, c'est ouais. Un peu... En tout cas. Ouais.
Mais Megaman quand même.
T'sais. Ouais, c'est parce que c'est Megaman, mais rendu à X6, c'était moins bon.
Donc, mon prochain, tu ne seras pas d'accord non plus. 2004, Megaman X8 au PS2.
La même date.
Ouais, la même date.
Thématique.
Quand même. Puis le dernier, je me suis gardé en 2010, la même journée, l'expansion Cataclysm de World of Warcraft est sortie. Hein? C'est ça, c'était...
Ah, c'est intéressant, ça.
C'est une journée où j'ai... Je
connais pas.
Pas grand-chose. niveau techno, 1963, première utilisation d'un instant replay en sport. Une oui. Game Army contre Navy sur CBS. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé en ondes pour se plaindre. Ils pensaient qu'il y avait un bug. Parce que, voyons, on l'a déjà vu, ce jeu-là. Pourquoi il repasse puis au ralenti?
C'est, en passant, il y a un documentaire sur ce sujet-là. C'est très, très intéressant parce qu'il y a eu plein de problèmes de droits d'utilisation légal okay. en différents réseaux. On en fera peut-être un topo, là, j'ai pas tous les détails en tête, mais c'est très, très intéressant l'histoire du Instant Replay dans les sports.
Mais le premier, un 7 décembre. 1972, la dernière mission Apollo, la Apollo 17, qui est la mission Apollo qui ont pris la photo, le Blue Marble. Si vous ne connaissez pas, c'est la photo probablement la plus connue de notre planète, une des dernières photos où la planète est prise d'un coup, là, si je ne me trompe pas. Donc, une photo très, très connue. Vous n'êtes pas sûr, là, googlez Blue Marble, vous allez voir tout de suite. C'est cette photo qui a été prise par Apollo 17.
Puis, il y a une super photo qui a été prise cette semaine aussi par le satellite chinois qui ont envoyé, là, où tu vois la Terre et la Lune au loin. Okay. À côté de l'autre, c'est vraiment impressionnant.
Ça donne une bonne
c'est plus loin qu'on pense.
Ouais, c'est la ça, distance, la perspective de la distance est impressionnante.
99, la Recording Industry Association of America poursuit une toute jeune compagnie de 6 mois qui s'appelle Napster. Oh. Oui, ça s'est fait cette journée-là.
Avec l'aide de Metallica.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié ce bout-là. Bref, grosse poursuite là, qui a fait que probablement toute la musique en ligne s'est développée beaucoup moins rapidement qu'elle aurait pu avec...
Napster, dans le temps, où downloader une tune pour un après-midi.
Oui, puis une fois sur deux, c'était pas la bonne.
Et voilà.
Sur deux, c'était pas une tune.
Ah, regarde donc une photo. Ah, regarde donc, elle a pas de linge.
Une toune, pas de linge. On a besoin d'une toutoune. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport.
Non, mais ça passe pas. Blade and Steel.
Alors, moi, cette semaine, je vous parle d'un petit jeu de DS qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé de Mutant League Hockey et de Electronic Arts. Dans le dernier podcast, on parlait justement d'un moment où ce que EA avait de la personnalité, qui était surtout plus dans les années 90. Mais lors des années 2000, ben on a quand même eu le droit à Henry Atsworth in the Puzzling Adventure ODS.
Hey, je t'interromps.
Oui.
Parlant de Mutant League Hockey, là.
Oui.
Si je me trompe pas, on avait.
Oh, on a une punition pour Jeff.
Ah, pas une pénalité à Jeff.
Eh oui.
Eh oui, il y avait pas de version arcade de Mutant League Hockey.
Voilà.
Fait que je vais mettre dans le coin moi-même.
on s'en parle tantôt. Tu vas te remettre dans quoi? En tout cas, c'est correct. On passe à d'autres choses. Donc, Henry Atsworth in the Puzzling Adventure, publié par EA sur Nintendo DS en 2009. Il s'agit d'un hybride action platformer. Côté platformer, là, action, donc, à la Ninja Gaiden, Mega Man, peu importe ce que vous voulez prendre comme référence. Et l'autre côté de l'hybride, ben, c'est un puzzle match 3. À sa sortie, le jeu se détaillait à 18$. Probablement à cause d'un manque terrible de confiance de EA en le produit. Dans ce jeu-là, on incarne un gentilhomme britannique, moustachu, monoclé, je suppose, avec un chapeau melon et avec constamment une pipe à la main. C'est un genre d'archéologue qui est à la recherche du Golden Suit.
Un chapeau d'explorateur.
C'est ça, c'est pas
un
chapeau melon.
Ça change dans le jeu. Okay, mais dans le matériel de presse, etc., c'est un chapeau melon.
Désolé.
Il cherche le Golden Suit, qui aurait des propriétés magiques, mais il croit pas vraiment à ça, mais il veut juste parce qu'il semblerait que c'est un maudit bel habit. Donc rapidement dans le début du jeu, il trouve le chapeau, puis il se rend compte que c'est effectivement vrai, qu'il y a de la magie, ça réveille des monstres, etc., puis le jeu part. Mais je ferai pas une critique en profondeur du jeu, parce que de dire c'est un platformer difficile avec des très très beaux graphiques, puis qu'on alterne avec du puzzle match 3, c'est ce qu'on a besoin de savoir a priori. J'en ai un peu plus de détails, mais je partirai pas pendant des heures là-dessus. Quand on tue des ennemis dans le côté platforming, qui est sur l'écran du haut, sur le DS, ça envoie les ennemis dans la grille de blocs en bas. Puis il faut empêcher que les ennemis de la grille de blocs en bas arrivent dans le haut de l'écran, parce que sinon ils viennent nous attaquer dans l'écran en haut. Puis quand on complète des matchs dans l'écran du bas, ça nous donne des powers qu'on peut utiliser dans l'écran du haut. C'est ça la mécanique de base, mais il y a tellement de surprises dans le jeu, puis je voudrais pas en gâcher pour les gens qui seraient intéressés, mais le jeu utilise ces mécaniques-là constamment. Moi, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un peu plus la personnalité, le paysage de ce jeu-là, qui est autant une raison de jouer que le gameplay. Donc, on va commencer.
Ah, imagine, déjà que j'avais pas besoin de raison de plus pour jouer que le gameplay.
Là, tu vas en avoir plein.
Premièrement, assez tôt dans le jeu, évidemment, il y a des discussions avec des personnages parce que l'histoire est très, très colorée, très, très loufoque. Et, ben, je vais vous laisser entendre comment que Henry parle. Tel tous les Britanniques que j'ai entendu parler.
Ouais,
dans
moi aussi. Mais
aucune différence. Donc, chacun des personnages a sa voix dans ce style d'onomatopée, cliché, ridicule-là. Puis il y a quand même beaucoup de personnages, fait que c'est très, très intéressant.
C'est comme le grand-père de Link dans Zelda 64.
Non, non. Espérons que non. Ça briserait un petit peu le lore. mais on sait que c'est important.
Ah oui, pour moi.
Puis au niveau de la musique, c'est là qu'on va vraiment s'y attarder. La musique du jeu était cohérente. Quand le jeu est sorti, il donnait en téléchargement gratuitement toute la bande sonore du jeu. En fait, une sélection en fait, d'une quinzaine de tunes. Il n'est plus disponible aujourd'hui, malheureusement, mais évidemment, c'est plein les murs sur YouTube. Il y a des tunes dans un style qu'on s'y attend plus pour un jeu qui a un fini britannique. Donc, exemple, la piste « The Butler Did It ».
C'est des cœurs, hein? J'adore.
C'est Tim Burton-esque un peu.
Ben, un petit peu. Ouais, ouais. On a aussi une piste qui s'appelle Dirty Tricks, qui reste dans le même dans la même vague.
Ben bon.
Et moi, j'ai redépoussé à ma DS tantôt. Là.
C'est ça, puis là, c'est comme bon, ça donne beaucoup de personnalité, ça représente toujours bien les environnements qui sont extrêmement variés dans le jeu. Mais à un certain moment dans le jeu, quand on complète des puzzles dans l'écran du bas, on a une barre d'énergie sur la droite qui nous permet d'utiliser soit notre fusil, notre arme de distance, ou quand elle est pleine, il y a un bouton qui apparaît avec une tasse de thé. Si on pèse dans l'écran, qui va activer un pouvoir spécial.
On n'aime pas ça les clichés, hein? C'est,
On vient même d'un royaume qui s'appelle Tealand.
Okay, ouais.
Et voilà. Le fusil, c'est un tromblon, là.
Bien sûr, bien sûr. Il va s'en dire. Et quand on active ce pouvoir-là, c'est écœurant, OK? Il y a une scène qui apparaît où il y a un personnage classique ou une scène typiquement britannique de l'époque victorienne en arrière-plan avec Henry Atwood qui apparaît en avant avec une tasse de thé et on entend le clip suivant. Et à ce moment-là, tous les acteurs en arrière-plan vont lever une tasse de thé. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire. On a Sherlock Holmes dans une ruelle devant un cadavre. Et au moment où Henry Asworth call un « Good show », il lève sa tasse de thé.
Le cadavre aussi ou...
Pardon?
Le cadavre aussi?
Oui. Le cadavre lève une tasse de thé.
C'est tellement...
On n'avait pas le choix.
C'est tellement British comme humour.
Et ensuite, par contre, on entend la chanson suivante.
Mais non!
Je suis en amour.
Et pendant qu'on entend ça, il y a un robot qui est un mix entre un scaphandre et une théière qui s'élève devant un drapeau britannique en style animé. Puis là, on tombe dans un mode powered up puisqu'on contrôle ce robot-là. Fait que je laisse la musique finir.
Écoute, c'est de toute beauté.
Fait que,
c'est n'importe quoi, jeu-là.
Puis le jeu est excessivement difficile. Fait que, à quelque part, c'est pas surprenant qu'il y ait un petit côté plus hardcore dans toute la présentation parce que il nous le rend bien.
C'est EA, ça.
C'est EA qui a publié ça.
Je veux tellement ce jeu-là.
Et voilà. Fait que c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. Je m'éterniserai pas sur le sujet, mais je vais vous laisser, par contre, sur un extrait. C'est pas un spoiler parce que je parlerai pas de l'histoire, mais c'est la chanson du dernier boss. Puis si vous avez pas encore le goût de jouer, puis vous aimez de la musique qui rock... Je pense que c'est tout ce que ça vous prête.
Réflexion.
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 Sur la semaine.
Hey, rigueur.
Un peu de sérieux. Bon,
un peu de sérieux. Hey, écoutez, les gars, cette semaine encore, comme à chaque semaine, je médite et je réfléchis aux événements qui sont passés depuis le dernier enregistrement de Divan Quest. Et cette semaine, j'ai pas pu laisser passer l'occasion d'admirer le geste de compassion et d'amour incroyable qui a été posé par le président Barack Obama. En effet, la semaine dernière, le président des États-Unis d'Amérique a posé un geste historique en offrant son pardon présidentiel à deux individus
dans le besoin, qui répondaient au nom de Honest et Abe. Donc, Honest et Abe ne seront donc pas mangés cette année lors des très populaires repas de l'Action de grâce.
Yeah!
À noter que le pardon de la dinde, c'est pas une coutume qui est très répandue ici au Canada, malgré les efforts acharnés de Mme Lise Thibault de l'obtenir devant la Cour suprême. Inévitablement, mes réflexions sur le sort réservé aux cousins et cousines de Honest et Abe m'ont amené à me questionner sur le rôle ingrat de la volaille dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, j'aimerais tout d'abord souligner que dans un souci d'alléger le texte et le contenu de ma réflexion, et bien entendu toujours dans le respect du sexe opposé, bien entendu, le masculin va être utilisé à travers tout le segment. Donc, voici donc une analyse rapide du traitement inadéquat des coqs à travers l'histoire du jeu vidéo. Donc, comme si être pané, trempé dans une sauce étrange et mangé en s'en mettant plein les doigts n'était pas suffisant humiliant pour les coqs, ceux-ci sont-ils devenus les animaux les plus détestés, ridiculisés et martyrisés de l'histoire du jeu vidéo?
On parle bien des coqs, là.
Les coqs.
Oui.
Donc, la carrière télévisée du coq avait pourtant bien débuté dans les années 80 avec des titres comme Freeway, et Chicken Chase sur le Atari 2600. C'est sans surprise que le coq a su maintenir une présence solide dans l'industrie jusqu'au début des années 90.
Ça passe pas.
Malheureusement, toute bonne chose a une fin et le coq n'a pas fait exception à la règle. Donc, c'est en 1991 que le coq a pour la première fois été maltraité à la vue de tous aux mains d'Akira Nishitani et d'Akira Yasuda, les deux concepteurs du jeu Street Fighter 2. Donc, en effet, on peut voir en arrière-plan du niveau du populaire personnage Chun-Li, il y a un commerçant en train d'étrangler un coq. L'animation en trois frames a été reçue par les fans de la série avec amusement et légèreté.
Hashtag choking the cock.
Menant plutôt à de nombreux calembours autour de l'expression anglophone « choking the chicken
»,
qui est une expression qui fait référence à la masturbation masculine. Évidemment, je tiens ici à souligner que Divan Quest n'endosse en aucun cas les blagues visant l'organe reproductif masculin.
Non.
On n'oserait pas.
On n'oserait pas. Pas du tout.
Divan Quest n'endosse en rien la masturbation.
Ouais, ça, je pense qu'on a déjà statué qu'on ne peut pas aller là. mais Street Fighter, c'était que le début du calvaire pour les coqs. Si un jeu doit être pointé du doigt, il s'agit sans conteste de The Legend of Zelda A Link to the Past.
Bien sûr.
Évidemment, qui a vu pour la première fois l'apparition des coqs appelés Koku dans le jeu. Et non seulement se suspendent aux cocos, je sais pas comment on les prononce, c'est vraiment difficile.
Coq.
Les coqs.
C'est des cocos.
C'est tellement wrong. Mais, OK.
C'est pas gris. On redescend.
On revient aux choses sérieuses.
Ou pas. Et voilà.
Donc, non seulement se suspendre aux cocos permettait à Link d'atteindre des endroits auparavant inatteignables grâce à leur capacité de vol limitée, mais les attaquer, ça déclenchait un terrible assaut de coqs sur le personnage. La mécanique a été clairement développée dans le but de prévenir l'abus de ces pauvres créatures, mais ça a eu plutôt l'effet contraire en incitant les joueurs à s'en prendre à eux depuis une distance sécuritaire à l'ère de leur boomerang. Et la pratique perdure depuis à travers de nombreux jeux vidéo, et ce depuis plus de 20 ans aujourd'hui. On n'a qu'à penser à la série Resident Evil, dans laquelle c'est impensable pour le gamer moderne de traverser les fermes et les villages sans exécuter sans remords au moins un des coqs qui évolue en toute liberté dans l'environnement, sans même s'attarder à collectionner les œufs qu'il laisse derrière, pourtant que c'est un objet qu'on peut collectionner. Et que dire des jeux Total Overdose et Chili Con Carnage, dans lesquels mettre à mort un coq permet d'augmenter le compteur de combos. Donc, le dilemme entre un sweet-ass combo et la mort de la pauvre créature, on n'en est jamais réellement un. Le coq, il passe à tous les coups. Pour ajouter l'insulte à l'injure, depuis la venue du deuxième titre de la série Fable, la chasse au coq est désormais source de trophées et de réussites, ou d'achievement, que ce soit en les kickant dans Fable 2, en les faisant exploser avec la dynamite dans Call of Juarez, ou en les tuant le plus rapidement possible dans Modern Warfare 2. Même la Wii s'en est mêlée avec des titres comme Chicken Blaster puis Chicken Shoot.
Ah, la Wii, c'est vrai, être family friendly, là,
ça. Ben, ce qui en fait la confirmation que le malheureux volatile est définitivement considéré comme l'animal le plus bas et facile à tuer du monde du divertissement électronique, et que l'apparition de cette pratique sur le marché du jeu occasionnel témoigne de l'acceptation générale de ce sentiment envers ce pauvre animal. mais Tout n'est peut-être pas perdu. Bethesda, le développeur derrière le populaire Skyrim, a affirmé à la sortie de Skyrim avoir dû corriger un bug qui s'était glissé à leur insu dans le jeu, puis qui permettait aux pauvres créatures ailées du jeu de dénoncer les crimes commis par le joueur aux gardes de la ville. Donc, malheureusement, ce premier effort de rébellion est mort dans l'œuf.
Oh.
Pour les oiseaux mangeurs de graines de Skyrim.
On n'a pas de rimshot.
Ouais,
mais pour tous les coqs de ce monde, il vient éclairer d'espoir le sombre poulailler dans lequel ceux-ci se retrouvent malheureusement si souvent.
Est-ce qu'on se compare à un hashtag je suis coq?
You, 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 you.
Cette semaine, mon segment, j'ai un segment avec pas mal plus de contenu que dans les dernières fois. Il me semble que je parlais de rien dans les derniers coups ou que je parlais trop longtemps.
Un ou l'autre. C'est drôle parce que c'est vrai.
C'est drôle parce que c'est vrai. Donc, je vous parle un peu de Hotline Miami. Puis, ça me sert un peu de tremplin pour parler de violence en général dans les jeux vidéo. C'est quand même pas pire avec
Hotline
ce que tu as parlé
Miami,
tantôt. Ouais, Hotline Miami.
Violence envers les coqs.
pas dans celui-là. Ben, quoi que tu peux être un masque de coq. Puis,
avoir une... Ah oui, ouais, ouais.
Voilà. Voilà, donc je me suis pogné cette semaine là, dans une vente de Steam, un paquet de jeux dont Hotline Miami qui était en gros solde. Je l'avais entendu parler vaguement, je pense qu'on avait même un peu parlé ici, là, mais comme en ricochet. J'avais souvent entendu des bons mots sur Hotline Miami, fait que je me dis, ben je vais l'essayer, hein, il était vraiment pas cher, allons-y, pourquoi pas. J'aime beaucoup les jeux indie, puis avec le look hyper rétro de ce jeu-là, je pouvais pas passer à côté. Fait que pour ceux qui ont jamais vu, là, c'est un 2D top-down action shooter, des graphiques 8-bits. Ça se passe comme dans les années 80, fait que c'est très très là, néon 80 à fond. Là, le setting est là de façon un peu abusive même et limite crise épileptique. Donc c'est un jeu qui a été développé par Denaton Games, là, qui sont deux gars, là, Jonathan Soderstrom et Dennis Whedon. Donc grosso modo deux gars qui ont développé ça. Sorti en 2012 sur Windows. Donc maintenant il est à peu près sur toutes les plateformes qui existent. Là, il est sorti sur à peu près tout. L'idée c'est qu'on est dans des tableaux. Puis le but de chacun des tableaux, c'est généralement de tuer tout le monde. Simplement comme ça. La violence est intensément abusive. Puis j'utilise les mots intensément abusive vraiment comme de façon réfléchie. Là. C'est à peine toned down par les graphiques 8 bits, là, mais à peine. Parce que tu vois des faces qui explosent puis du sang qui gicle comme jamais dans un jeu 8 bits. Là. Donc, tu commences les tableaux généralement à main nue. Puis tu peux pas me frapper le gars puis pogner à terre, le finir, il bâcher la tête au sol jusqu'à temps qu'il disparaissent, hein, finalement.
Slash éclate.
Ouais, éclate. Tu peux avoir des armes de mêlée, tu peux même pitcher tes armes pour les accrocher, ou si c'est des couteaux, mettons, ça peut le tuer de loin, puis t'as ben, des armes à feu, hein, c'est certain. Fait qu'au niveau du gameplay, ils ont rien réinventé totalement, mais c'est un gameplay qui est vraiment le fun, très, très, là, c'est de l'action, mais rapide, mais il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire quand tu rentres dans une pièce, t'sais, si tu rentres dans une salle avec 12-13 gardes qui ont des guns, toi, t'as ton shotgun qui a 6 balles, puis si tu manges une balle, tu meurs, ben, ça fonctionnera pas. Il faut que tu réfléchisses un peu plus. Donc, il y a un petit côté stealth game là-dedans, là, sans que tu sois comme totalement stealth, mettons, style Mark of the Ninja, où est-ce que tu te caches dans l'ombre. Mais il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire puis que tu y penses. T'sais, tu peux attirer les gardes en te mettant un peu plus visible puis en te cachant pour qu'ils s'en viennent, les pogner un par un dans un coin de détour. Il y a un peu de réflexion en arrière de ça. La mort est rapide. Une balle, tu meurs. Un coup de batte de baseball, tu meurs. Mais elle n'est pas très punitive parce que quand tu meurs, ben, tu recommences le tableau du début. Puis les tableaux qui sont plus longs, mettons des étages où ça fait des. Des genres de checkpoint, puis tu recommences à ce niveau-là.
Puis en plus, tu recommences instantanément.
Oui, c'est instantané, là. C'est tellement instantané que si tu te rends pas compte, ben, tu te rends pas compte que t'es mort. Si t'es mort vite, puis t'as pas enlevé ton doigt du bouton, tu vas repartir à avancer, puis remourir tout de suite, ça t'est arrivé plusieurs fois. Donc, c'est instantané, là. Tu meurs, tu recommences. Il y a même pas de loading, rien, c'est vraiment. Fait que, tu sais, c'est fait pour que tu meurs plusieurs fois pour essayer de trouver la meilleure façon de le faire, puis le faire ensuite. Fait qu'en général, c'est vraiment pas si pire de mourir, à part quand t'as un très très long level, puis que tu meurs à la fin. Mais, tu sais, c'est quand même c'est vraiment bien pour ça. Fait que, au niveau là, d'un genre de top-down action stealth game, génial pour le gameplay. Puis au niveau de l'histoire, là, c'est complètement fucky. J'en écouterai pas, j'en parlerai pas trop longtemps parce que je pense que je comprends encore pas ce qui s'est passé. Là. J'ai beau regarder des vidéos pour essayer de la comprendre. C'est complètement weird. Là, tu commences le jeu, t'es comme dans le noir dans une pièce. La seule place que tu peux passer, tu rouvres une porte. Puis là, il y a comme trois dos avec des têtes d'animaux. Là, tu comprends plus tard que c'est des masques, mais tu sais, sur le coup, t'es même pas sûr si c'est vraiment un masque ou c'est juste un gars qui a une tête de coq ou une tête de cheval ou une tête.
T'sais, pourquoi c'est drôle?
Hein? Ben,
Qui parle? C'est de ta faute. Donc, c'est vraiment comme bizarre. Puis tu sais, tu te dis, bon, l'histoire va avancer, je vais finir par comprendre, mais pas tant. T'sais, le jeu avance, à un moment donné, il y a un changement de personnage. tu dis, oh, je vais continuer par comprendre, puis pas tant, tu sais, c'est weird un peu. Puis bon, je pense que l'histoire se continue un peu dans le deuxième, auquel j'ai absolument pas joué. Mais l'histoire est incompréhensible, mais c'est ce qui fait, je pense, que c'est intéressant. Puis quand tu finis par la comprendre un peu, tu te grattes la tête en disant...
Mais elle est effectivement très, très nébuleuse, mais sans comprendre toute l'histoire, tu comprends des choses au premier degré qui te permettent de comprendre que ton personnage comprend pas non plus. Fait que y a une certaine clarté dans la confusion qui te permet quand même de suivre les événements, puis que le fait que tu comprends pas tout ce qui se passe nuit pas à ta progression et à ton appréciation des événements.
Tu sais, le jeu passe, comme je te dis, là, tu parles à trois gars avec des masses d'animaux, ça coupe, tu te ramasses dans ton appartement comme tout démoli, tu bouges un peu, ah, il y a un message sur ton téléphone, tu messages sur ton téléphone, te dit va à telle place, tu descends l'escalier, tu te mets un masque d'animal, puis...
Piu, 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 piu! C'est la version censurée.
C'est la version censurée. Donc, voilà, mais super bon jeu, j'ai adoré jouer à ce jeu-là, j'ai fait le tour rapidement, puis c'est pas un jeu qui est hyper court ni hyper long, mais faire le tour aussi vite que je l'ai fait, c'est parce que j'ai joué pas mal aussi. Là. Mm-hmm. Donc, super bon. Oui, justement, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Là. Attendez la conclusion de l'épisode, j'ai peut-être une petite surprise par rapport à Hotline Miami 2. Pas 2, mais Hotline Miami. Donc, au niveau de la soundtrack, je fais une petite parenthèse, parce que la soundtrack était écœurante. C'est drôle, on a des segments qui se rejoignent un peu là-dessus. Là. Elle ajoute à l'atmosphère. Là. Je suis en train de deux bouts de chansons qui sont dans le jeu. Juste pour donner une petite idée de l'atmosphère audio, là, c'est complètement... Tune du menu, là. Des styles différents, mais qui te mettent dans l'ambiance là, de façon vraiment intense. Là. Donc, au niveau de la soundtrack, ça rajoute.
Très 80, très éclectique.
Ah ouais, électro 80, je sais pas trop. Là, mais ouais. Donc, voilà. Mais au niveau de l'esthétisme, c'est vraiment la violence qui frappe le plus. Puis c'est un peu pour ça que je me suis décidé de parler un peu de la violence dans les jeux vidéo en général, du côté controverse de la chose. Parce que c'est pas récent qu'il y a des controverses autour de la violence dans les jeux vidéo. Pourtant, ce jeu-là a absolument soulevé aucune controverse au niveau de la violence dans le jeu vidéo. Parce que, tu sais, le côté 8-bit a probablement fait que le monde a fait comme bof. Mais pourtant, il y a très longtemps. Ben, il y a très longtemps. Très longtemps. ça fait très longtemps qu'il y a de la
vieux
controverse.
Vieux Chris!
Ça fait très longtemps qu'il y a de la controverse au niveau de la violence dans les jeux vidéo. Petite question trivia pour commencer. Première controverse dans les jeux vidéo liée à la violence, avez-vous une idée?
Première.
Ouais. Première fois.
MK, Mortal Kombat?
Non, c'est avant.
Predate Mortal Kombat.
Avant Mortal Kombat.
Oui.
Je pourrais pas dire.
Donc, 1976.
Holy shit.
je pensais pas si loin que ça. Là.
Le jeu s'appelle Death Race.
Ben oui.
Death Race, tu conduis une auto. On s'entend que c'est genre à peu près graphique Atari. Là, c'est à l'arcade. Tu conduis une auto puis tu écrases des bonhommes qui appellent des gremlins, là, qui sont des petits humanoïdes. Quand tu les écrases, sont remplacés par des petites pierres tombales. Fait que grosse controverse autour de ça. Il y a des gens qui disent que peut-être que ce qu'il y a un peu... t'es amené de l'eau au moulin de la controverse, c'est que le jeu, son working title, c'était Pedestrian. Là. Mm-hmm. Puis après ça, ils ont changé ça pour comme dire que c'était des monstres, mais c'est vraiment des petites menines que t'écrases que les pierres tombales. Fait que ça a quand même amené une bonne controverse. Donc c'est la première controverse, mais on s'entend que bon, c'était pas. On n'est pas au niveau d'où est-ce qu'on est maintenant. Donc, mais il y a quand même pas mal de jeux violents des années 90, en particulier.
Justement,
Mortal Kombat. Mortal Kombat, la version arcade en premier lieu, a amené beaucoup de controverses, probablement parce que il y avait d'autres jeux là, de violence, là, d'autres jeux qui étaient très violents, qui étaient aussi gore, mais lui avait le côté là, de réalisme au niveau des graphiques digitalisés, qui était un des premiers de son époque à être digitalisé et aussi violent et aussi gore. Donc ça l'a amené vraiment...
Puis le premier, c'est des acteurs filmés.
Oui, c'est ça. C'est filmé quand on parlait des graphiques digitalisés c'est ça. Oui.
C'est ce qui a amené une plus grosse controverse. Là. Les gens, comme voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, avec les jeux violents qu'il y avait aussi dans ces époques-là, parce qu'en 90, je pense que le fait que les jeux pouvaient être assez réalistes pour que la violence soit réaliste aussi, a amené un paquet là, d'histoires. Puis c'est un peu là, avec Mortal Kombat 1 puis ce que suivi, que ça a amené la création là, du Entertainment Software Rating Board, là, le ESRB, là, avec les lettres qu'on connaît aux États-Unis. Puis nous autres, on a notre système canadien là, qui est semblable. Encore les années 90, je continue un peu d'avancer, là. En 93, Doom a amené une pas pire controverse aussi. C'est pas parce qu'il était nécessairement plus violent que d'autres jeux, mais c'était probablement le premier jeu où il y avait autant de violence et autant de gore en first person.
En première personne.
Où tu étais directement responsable de, à travers tes yeux de la violence.
Vraiment, c'est ça, c'est toi qui voyais la, la violence au travers de tes yeux. Tu n'étais pas comme en troisième personne où on peut faire une certaine distinction entre ben, je le contrôle, mais c'est pas moi. Là, c'est vraiment c'est toi qui le faisais. Donc, ça a amené beaucoup là, de controverses à ce niveau-là. Puis, c'est peut-être pas non plus le premier, mais c'est un des premiers FPS qui a eu un gros reach, qui a atteint aussi un aussi grand public. Donc, là, ben, plus qu'il y a de monde qui le voit, plus qu'il y a de gens qui peuvent le voir en disant ça n'a pas de bon sens.
Et le premier avec les deathmatch en plus, ce qui faisait que tu tuais d'autres joueurs humains.
Ah, toi, ce bout-là, je ne le savais pas. Donc, très violent pour Doom. En même temps, comme c'était pas assez, là, quelques années plus tard, la tuerie à Columbine en 99 a un peu ramené cette controverse-là parce que les deux tueurs étaient des gros joueurs de Doom. T'sais. Donc, il y a un paquet de monde qui se sont mis à dire que c'est à cause de Doom qu'ils ont fait ces actions-là.
Hein. Quand tu y penses aujourd'hui. Quand ouais,
c'est à cause de Doom qu'il n'y a plus de Martiens qui sortent d'enfer ici sur Terre. Ils ont tous été tués par les...
Tout à fait.
Par les maudits gamers.
Les maudits gamers.
Ça pas d'allure.
On s'entend que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils se disaient, mais c'est quand même ce qu'ils disaient beaucoup dans les médias là, dans ces années-là. Hein. Fait qu'ils ont fait ça à cause qu'ils jouaient à Doom. Si on parle de Mortal Kombat et de Doom, on s'entend qu'on peut pas passer à côté d'une autre franchise qui a amené beaucoup de controverses dans le domaine. J'imagine que vous savez un peu où je m'en vais.
Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto. Dès la première version en 97, il y a quand même eu de la controverse là, sur Grand Theft Auto. C'était un top-down à l'époque, là, un peu... T'sais, quand je parlais de Hotline Miami, là, au niveau du look, du gameplay, un peu dans le même principe, vu du dessus.
À vol d'oiseau.
À vol d'oiseau, merci. Mais... Ce qui a amené le plus gros controverse, c'est que c'était un des premiers jeux à laisser faire aux joueurs à peu près n'importe quelle action criminelle que tu pouvais penser. Tu sais, tu voles des autos, tu écrases des piétons, tu débarques de l'auto, tu voles des banques. Tu sais, toutes les actions criminelles qu'on connaît de Grand Theft Auto sont là. Donc, ça a quand même amené un petit quelque chose de, voyons, on peut faire n'importe quoi aux joueurs. Puis là, ben, c'est certain qu'on revient en 2001, puis la controverse a monté d'une grosse coche avec Grand Theft Auto 3, étant donné le changement de perspective là, qui nous amenait en troisième personne. Donc, on était vraiment plus dans l'action qu'en vue de vol d'oiseau. Amène quand même un bon réalisme. C'est très drôle de dire que Grand Theft Auto 3 était réaliste quand tu regardes maintenant le jeu. Mmh. Mais à l'époque, c'était quand même vraiment très réaliste. Donc, tu sais, ça permettait aux joueurs, surtout à Grand Theft Auto 3, de tirer sur des policiers qui avaient l'air des policiers. C'était pas des petits bonhommes avec un saut de bleu. On voyait les policiers, on voyait l'uniforme qui était très semblable aux uniformes des policiers de New York, des choses comme ça. Tu pouvais... bon, on connaît ce qu'on peut faire dans Grand Theft Auto. Là, on peut ramasser des prostituées sur le bord de la rue, avoir des relations sexuelles avec. Après ça, les laisser débarquer, les battre puis voler leur fric. Là. On s'entend que ça va quand même assez loin au niveau de la criminalité puis des actions que tu pouvais faire dans ce jeu-là.
Assez excessif.
Quand même. Comprenez que je ne trouve pas que ce sont des bonnes idées. Hein. Je fais juste souligner comme ça on peut se faire dans le jeu. Donc, voilà, tu sais, ça a été un jeu qui a amené beaucoup de controverses à ce niveau-là. On s'entend qu'un joueur qui aime le jeu n'est pas obligé de faire toutes ces actions criminelles-là, peut suivre juste l'émission. Puis c'est sûr qu'il y a de la violence, mais pas toutes ces actions criminelles-là inutiles et intenses. Mais ça a amené quand même beaucoup de discussions là-dessus. Justement, en 2003, des familles de deux victimes de meurtre ont entamé la première, si on veut, des nombreuses poursuites là, qui ont suivi contre la série. Rapidement, les poursuites ont été abandonnées. Mais c'est quand même la première fois qu'on a dit « Hey, les gens de ma famille ont été tués, puis c'est à cause de ton jeu, fait que je te poursuis. » On faisait c'est vraiment le lien de cause à effet, ce qui n'a pas tenu en cours, mais quand même, ça l'a amené.
Thank God que ça n'a pas tenu.
Oh, oui. Mais là, ça a entraîné l'histoire qui est très connue pour les joueurs qui suivent un peu l'actualité avec ce fameux Jack Thompson.
Monsieur Thompson.
Non, pas de monsieur.
Il mérite pas.
Chose Thompson.
Thompson,
qui a multiplié les sorties dans les médias contre les jeux vidéo violents, les poursuites qui s'offraient pour défendre les gens qui voulaient poursuivre l'industrie et tout ça. Je rentre pas dans les gros détails parce que ça deviendrait un peu là.
Puis il mérite pas.
Mais probablement là, que les controverses les plus connues des dernières années autour de la violence des jeux vidéo, ils sont pas mal liés à ce gars-là. Je vous donne une citation qui lui est connue. La citation qui est « Guns don't kill people, video games do ».
il sonne comme Tom Mulcair qui essayait de faire ses slogans pendant la campagne puis qui sortait des astuces de phrases chiteuses. Genre avec « Healthcare, Mulcair », puis ces conneries de même. Là,
ah, ça manqué celle-là.
C'est à peu près de ce calibre-là. Genre, on va essayer de faire un slogan à quel monde. Bon, non.
Mais le « Guns don't kill people » est un slogan quand même beaucoup de la NRA, je me trompe pas. Là, je pense que c'est « Guns don't kill people »,« People kill people », quelque chose comme ça. Là.
Genre.
Voulant dire que c'est pas les guns qui sont le problème, c'est juste que les mondes n'ont pas assez de guns.
Pour un autre épisode.
Si on continue un peu dans les autres controverses au jeux vidéo, Postal 2 en 2003. Personnellement, j'avais pas entendu parler de ce jeu-là. Je connaissais pas ce jeu-là. Ça a l'air que la violence allait extrêmement loin.
Ainsi que la capacité d'uriner sur
un
téléphone.
Oui, j'y allais justement. Tu peux être violent envers les animaux, ce qui est quand même assez rare dans les jeux vidéo, à part les coucous là, ou les coqs en
les
général.
Coques. Les coqs, oui.
Oui. Donc, mais la violence envers les animaux en général. Mon Dieu, on dirait qu'on s'est concerté aujourd'hui et pourtant pas.
On s'est concerté pour tout parler de coq, ben oui, tu sais. Si, pas besoin de faire un peu d'effort, les gars, là. Je vous connais assez, pour savoir.
Dans Postal 2 aussi, la violence envers les autres personnes était intense, mais était aussi intense, puis tout à fait gratuite des grands bouts. Là, l'exemple que je voyais dans un article, c'est que, tu sais, quelqu'un te coupe à la banque, tu peux devenir hyper violent, puis il arrache la tête parce qu'il t'a coupé là, dans une file, tu sais.
Oh, mais ça, c'était un petit peu l'idée du jeu. Sans défendre le jeu, là, parce que le jeu est vraiment gratuit, là. Mais l'idée, c'est que ton personnage arrive à un point... L'expression « go postal » implique un travailleur des postes qui a pété une coche puis qui a tué tout le monde. Fait que c'est l'idée d'amener ton personnage au départ dans Postal 2 à snapper, de vivre des situations de la vie où ce qui est fucking plus capable, puis là, va commettre des massacres, t'sais.
Puis, comme tu disais, le jeu permettait d'uriner sur le corps des victimes avec un système pour traquer la quantité d'urine que t'avais versée sur le corps des victimes.
Puis, il vomissait quand tu faisais ça, tu vois.
Ah, oh, c'était pas mort. Ouais,
puis, mais ce que je trouve intéressant, je sais plus si c'est Postal 1 ou Postal 2, mais le personnage que tu joues est un développeur de jeux vidéo.
Ah, shit.
Fait, au début du jeu, il est dans un.
C'est ça, le jeu montre que tu peux être violent envers une personne ici qui proteste contre les jeux vidéo violents. c'est hyper méta, mais dans le jeu, tu peux être violent contre une personne qui proteste contre la violence. T'sais.
Il y a quasiment un message, Astic.
C'est ça. T'sais, il y a quelque chose de... Bon, on s'entend, là, c'est hyper gratuit comme violence. Ce petit bout-là, c'est quelque chose de intense. Bref, le jeu a été banni en Australie aussi.
Mais quand même, un gros merci à ce beau monsieur, Wibble, pour nous avoir fait un film avec ce film-là. Quand même.
Le film de Postal est un guilty pleasure à écouter. Faudrait parce qu'ils sont pleinement au courant à quel point c'est de la merde, un peu ce qui se passe dans le jeu. Puis Uwe Boll, le réalisateur de films de jeux vidéo complètement dégueulasses, est aussi au courant quand il fait ce film-là. Puis c'est très drôle à écouter. Ça n'a aucun respect pour rien. Ça n'a pas d'allure. C'est quand même drôle. C'est même pas dans un top 2000 de films. Mais c'est quand même drôle.
Mais bon, au niveau de la controverse, on peut comprendre que ce jeu-là l'aura soulevé. 2007, j'ai pas pensé que ça aurait pu se produire parce que le jeu en tant que tel est peut-être pas si pire que ça, mais BioShock a quand même soulevé une pas pire controverse.
Ah, avec les enfants.
Oui, à cause des Little Sisters, là, qui sont des petites filles mutantes dans le jeu, qu'on peut choisir. Hein, comment?
Oui,
avec les Big Daddy.
Avec les Big Daddy.
Ah, ça ne regarde pas, ça.
donc, les petites filles mutantes qu'on peut choisir de sauver ou de tuer, tu sais. Donc, tu sais, pour les gamers en général, c'est une mutante, puis c'est un choix dans un jeu vidéo, puis on voit pas le côté que c'est une petite fille nécessairement.
C'est très bien rationalisé à l'intérieur du jeu ce que tu fais.
Mais sort cette information-là du contexte, drop ça dans les médias qu'on connaît, là, les médias 2007, puis aujourd'hui c'est pas très différent. Écoute, ça a l'air parti en flèche, les gens qui capotaient, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu es des petites filles, tu sors l'information du contexte, puis là tu peux. Vraiment, là, tu vas sursimplifier un aspect comme du jeu vidéo. Puis c'est ce que les développeurs du jeu ont dit. Là, on sursimplifie vraiment quelque chose. Un, c'est des mutantes. Là, c'est pas des petites filles comme qu'on te pogne au coin de la rue. Là, puis... Mais ça l'a quand même brassé dans les médias.
Ça veut dire que tu peux pogner une mutante sur un coin de la rue. Là. On n'a rien contre les mutants.
Voilà. On n'est pas en faveur de l'acte d'enregistrement des mutants.
Oh, ouais, déjà, tu prends position tout de suite.
Éditorial.
On s'est pas consulté avant.
On va en jaser. Un peu en lien avec ce que JF parlait tantôt, Call of Duty Modern Warfare 2 en 2009 aussi comme suscité une pas pire controverse. J'avais oublié celui-là parce que je trippe pas trop shooter, mais j'avais comme entendu parler à l'époque la première mission là, qui s'appelait No Russian, où est-ce que dans le fond ton joueur se retrouvait en Afghanistan dans un team avec les terroristes, puis là ben dans le fond tu pouvais te joindre aux terroristes pour tuer les otages ou un truc comme ça. Dans le fond,
t'es dans un aéroport.
Exact.
Ouais. Les portes d'ascenseur rouvrent. T'as un light machine gun avec comme 300 balles. T'as pas besoin de recharger. Puis tu peux juste marcher. Puis il faut que tu suives les autres. Puis tu mow down.
C'est ça. Parce que vous voulez, dans le fond, les terroristes. T'es undercover avec les terroristes. Puis ils veulent que le monde pense que c'est des telles personnes qui ont fait ce crime-là. Fait qu'il faut que tu fasses un crime stagé. Mais tu tues du monde. Voilà. Puis la scène est que narrative, elle sert à rien, il n'y a pas de gameplay. Non.
Il l'avait patché, donc tu peux la skipper.
Oui, c'est ça. Ouais. Ils l'ont mis optionnel la mission, puis ça avise au début de la mission, là, comme quoi il y a des images qui peuvent être troublantes, puis tout ça. Mais reste que, tu sais, surtout, bon, on s'entend, là, 2009, on avait comme l'époque du terrorisme, tout ça, qui était comme un peu entamé, là, puis on peut comprendre que ça allait un peu susciter la controverse.
On veut-tu en parler? Parce que je trouve ça intéressant de l'angle de censure. dans ce média-là parce qu'un film peut le faire, puis c'est acceptable.
Tout à fait.
À part, c'est complètement acceptable qu'un film le fait, mais du moment où ça devient interactif, le monde pense que les joueurs de jeux vidéo vivent des fantasmes à travers une manette puis un écran.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi, là. Tu sais, c'est sûr que tu peux, c'est toi qui payes sur le piton pour faire ça, mais comme tu dis, c'est une mission qui est hyper narrative. Tu suis les autres, t'as rien d'autre à faire, tu te promènes pas en cherchant le monde.
Puis il y a combien de films où est-ce qu'on a un policier undercover qui vend de la dope, fait de la dope, puis c'est exactement ça, cette scène-là, où est-ce que t'es obligé de faire quelque chose d'horrible pour un but supérieur? Puis t'es supposé voir que c'est horrible, t'es supposé. La scène ne diminue en rien l'impact de ce qui est en train de se passer. Elle essaye pas. Je sais que Call of Duty est pas une série connue pour sa subtilité, mais ce qu'il voulait faire à ce moment-là, c'était quand même te dire regarde ce que t'es obligé de faire, mais tu veux essayer d'empêcher comme une organisation terroriste complète. Fait que joue le jeu.
Ben, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un point. Tu peux faire la même chose dans un film, puis dans un jeu, ça passe pas ou ça passe moins.
Mais même les films, des fois, on va le revenir. C'est pas Spider-Man quand ont retardé la sortie parce qu'il y avait une scène où il faisait sa toile entre le World Trade Center, puis ouais, mais... qu'ils ont retardé la sortie du film, puis ils ont changé la scène.
Mais c'était pas. Ça, je comprends. C'était parce qu'ils utilisaient vraiment un pour un environnement, un endroit. Ouais. Qui est disparu puis qui a une signification importante, mais les événements, il y a plein de films qui ont des tueries. Là. Oui, effectivement, tu les montres pas. C'est rare que tu vas les montrer à l'écran directement sans un poids émotionnel extrêmement lourd, évidemment. Tandis que là, ça devient mitigé. Bref, le jeu te demande de comprendre ce qui te présente parce qu'il peut pas te forcer une émotion à travers tout le montage qu'un film fait.
Puis c'est vrai que tu sais, Même en fait, on va en faire des films de ces événements-là. On prend juste la Polytechnique, des choses comme ça. Ouais. Ils vont faire un film sur cet événement-là directement. On ferait un jeu sur Polytechnique, ça serait le scandale.
Ben, c'est sûr que si le jeu fait que t'es. J'ai pas le goût de le nommer. Mais t'es le gars qui fait le massacre, effectivement, ça passerait pas. T'sais. Puis, fait que pour ça que chacun, il y a des façons de présenter les événements. Mais là, on est dans le complètement fictif. Puis, ça arrive des massacres, deal with it. T'sais. Je sais pas.
Mais en même temps, on voit aussi peut-être l'évolution. Au départ, à l'époque, la violence qui était juste le fait que c'était violent créait de la controverse. T'sais. Après ça, la violence qui avait un certain réalisme causait de la controverse. En même temps, là, quelqu'un a entendu parler de quelqu'un qui chialait contre Mortal Kombat X qui est sorti là, dernièrement.
Non, c'est ça.
Puis c'est aussi violent entre guillemets que le premier, vraiment plus réaliste, puis c'est encore plus violent parce que le réalisme le permet. Puis il n'y a pas personne qui s'en est plaint. Il y aura une espèce d'évolution. Maintenant, on est plus comme ce qui nous fait réagir, c'est le côté émotif, le côté relié à la réalité.
Puis je pense qu'il y a un gros côté où depuis 2001, il y a un sujet qui est tabou, puis c'est ça qui dérange.
Mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le point que tu as apporté, Danny, parce que ça montre quand même que le dialogue dans l'espace public évolue. Que les jeux, c'est comme, bon, ben à ce temps, le fait qu'il y a de la violence dans un film, bon, écoute, les jeux sont capables de le faire, sont capables de le montrer. OK, mais si les thèmes deviennent si durs, là, peut-être qu'on réagit. Mais le fait de commettre de la violence dans un jeu, que le jeu présente des images très, très graphiques, on en revient, tu sais.
Mais ça m'amène à revenir à un peu où est-ce que je m'en allais avec ça. Je revenais sur Hotline Miami, justement.
Ouais.
On s'entend là, que c'est un jeu qui est hyper violent. Là, pour ceux qui auront joué, sinon, regardez, 30 secondes de gameplay, vous le voyez, là, les gens explosent quand on les tue, tu sais, puis c'est extrêmement violent, mais ça n'a pas comme causé aucune controverse de ce côté-là. Par contre, quand Hotline Miami 2 est sorti, lui, il y a eu une pas pire solide controverse autour de ça. J'ai pas joué, là, fait que je vous rapporte ce que j'ai pu lire sur le sujet. Dans le fond, à la fin du tutoriel, tu arrives à la fin du tutoriel, dans le fond, il y a une fille qui est par terre, puis ça dit quelque chose comme « finish her », quelque chose comme ça, puis là, tu penses que tu vas aller lui pogner à la tête puis y abâcher comme on voit souvent, mais là, tu t'approches de la fille, puis le personnage se drop les pantalons. Là, t'entends couper! T'entends couper! Parce que c'était une scène dans un film qui est en train de tourner. Ton tutoriel, t'es comme le personnage qui joue dans un film. Puis là, il y a une affaire hyper méta, ça a l'air avec l'histoire du jeu, mais j'ai pas joué, je peux pas embarquer dedans. Reste que, tu vois, ta réaction.
Implied rape.
La réaction que t'amènes est exactement la réaction qu'il y a eu un peu partout. Il y a beaucoup de controverses autour de cette scène-là, là, où est-ce que, tu sais, dans le fond, tu vois pas d'agression sexuelle, mais c'est implicite. Tu sais que c'est quelque chose qui s'en venait, même s'il y a le coupé qui suit tout de suite après.
Donc, tu sens plus que c'est dans un film.
Mais il y a une espèce d'inconfort. Puis je pense que c'était peut-être ça au départ. Le but, c'est de montrer que si c'est le genre de scène-là dans un film, ça arriverait, puis ça serait correct, entre guillemets. T'sais.
Ouais, c'est ça. Tu pourrais utiliser ce contenu-là dans un film.
Puis dans un jeu, grosse controverse, là, mais solide, même si dans le jeu, c'est aussi un film. Je dis pas que c'est correct de faire des blagues là-dessus. Je dis pas que c'est une bonne affaire, que ce soit nulle part. Là. Je trouve que c'est un sujet qui devrait pas être amené dans aucune forme de divertissement. Mais je trouve que espèce de dichotomie entre les deux est quand même particulière. Là. Dans un film, on réagirait, mais on comprendrait que ça va aider la narrative. Puis dans le jeu,
c'est ça.
Ça a l'air que c'est pour aider la narrative du jeu aussi. J'ai pas joué, je pourrais pas dire, mais c'est ce que j'ai entendu. Puis c'est le même mise en scène. Là. Tu sais que c'est un film tout de suite. De l'impression que quand tu regardes un film, tu sais que c'est un film. Puis là, ben, ça a beaucoup réagi. Autour de ça, dans le fond, là, les devs ont enlevé la scène de la démo là, parce que c'est dans la démo qu'on voyait cette scène-là au départ. Puis là, déjà, ils l'ont enlevé de la démo, ont réglé ce bout-là. Puis après ça, je sais pas là, qu'est-ce qui en est devenu avec le jeu en version finale. S'ils l'ont enlevé, s'il est rendu skippable ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pas joué. Fait que j'ai cherché un peu, puis j'arrivais pas à trouver l'information sur qu'est-ce qui en est dans la version finale du jeu.
Mais ça a quand même créé cette controverse.
Ça a quand même créé beaucoup de controverses. Puis encore là, tu sais, tout est implicite. Là. Mais le reste de la violence du jeu. Ou est-ce que tu tues des centaines de personnes puis explosent en gerbes de sang, là?
Ça, c'était correct.
Ouais.
Tu sais, il y a quelque chose de particulier. Je veux m'embarquer dans une grosse analyse de la société, mais...
Disons juste que la version de Duke Nukem qui ont sorti au 64, ils ont remplacé tous les bars de danseuses par des magasins de guns. Il y en a un qui est correct, l'autre l'est pas.
Tu sais?
C'est ça.
Ouais. C'est ça, il y a comme mais, quelque chose de particulier là.
Tout ce que ça me fait penser, je veux pas me permettre de rentrer dans la tête là-dessus. Mais, on parle de shooter, on parle de violence, puis je pense que c'est possible de faire des jeux qui ont la même expérience de jeu, toute la même mécanique, mais que c'est pas violent. C'est pas juste à Splatoon sur la Wii.
Mm-hmm.
Okay, t'as des guns, mais tu tires de la peinture. Tu tues pas personne. T'es couche à terre, puis t'es peinture, puis t'as un rouleau, puis t'es roux. Ouais,
il explose.
Mais c'est, le but du jeu, c'est juste de colorier le tableau à la couleur de ton équipe. Puis ça l'enlève. C'est le même gameplay, c'est les mêmes façons de jouer, mais tu fais juste prendre une perspective différente, puis le jeu...
Sauf que... On écoute des films violents sans aucun problème.
Mm-hmm.
Ça fait partie de notre culture. Fait que pourquoi est-ce que le jeu devrait se censurer? J'avoue qu'il y a beaucoup de mes jeux préférés qui sont relativement non-violents.
Ouais.
Juste parce qu'ils ont des univers très, très imaginatifs ou qui glorifient pas la violence, disons. Mais c'est pas une raison pour s'en empêcher.
Mais je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, il y a des jeux que j'aime qui sont hyper violents. Puis j'aimerais ça qu'ils soient moins violents pour y jouer. T'sais. Mettons Grand Theft Auto, j'aime ce genre de gameplay-là.
Mm-hmm.
Mais je pense que j'aimerais autant le jeu s'il n'y avait pas autant de violence inutile et gratuite.
Donc, Lego City Undercover sur la Wii.
Bon, tu vois, j'ai pas joué.
C'est GTA Lego.
Mais écoute, je trouve ça super intéressant le point que tu amènes parce que ça m'amène un peu à la conclusion de mon segment. Tu sais, justement, le lien entre les jeux vidéo et la violence, là, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a eu un paquet d'études sur le sujet là, qui vont dans les deux sens, que ça a un lien, qu'il y a un impact, qu'il n'y a pas d'impact. Je pense qu'il y aurait de quoi faire 2-3 maîtrises sur le sujet. Là, fait que allez aux intéressants, vous me donnerez vos conclusions. Un de mes articles préférés que j'ai pu lire là-dessus, c'est sur le Forbes.com, le site Forbes.com. Puis le titre de l'article était, puis là, on s'entend pourquoi j'ai cliqué dessus quand je l'ai vu ça sur YouTube, sur Google. Violent video games can turn kids into progressive intellectuals. C'est écœurant. L'auteur s'appelle Jordan Shapiro. En gros, là, il parle un peu dans l'article justement du clickbaiting pour essayer de que les gens ils cliquent sur ton article. Ou est-ce que ton titre, c'est juste une espèce de conclusion douteuse qui est basée semi sur des études. Fait qu'on s'entend que son titre faisait un peu la même chose qu'il dénonce, mais d'une façon à l'opposé. C'est assez rare que tu vois des articles qui disent que les jeux vidéo peuvent transformer des enfants en des intellectuels progressifs. Là.
Bref, progressistes, attirer le clic, mais en faisant une lumière positive sur un sujet pour une fois.
C'est ça. Donc, un peu pour ça que j'ai cliqué sur l'article.
Ce petit poisson.
En tant qu'intellectuel progressif.
Et voilà.
Soit disant.
Autoproclamé.
Il parle aussi dans l'article de l'importance de l'éducation puis de l'encadrement des enfants devant n'importe quelle forme de divertissement. Il dit que dropper des kids devant un jeu sans encadrement... Ben, c'est peut-être ça qui va provoquer des développements qui vont amener des déviances après ça, tu sais, pas mal plus que le jeu comme tel. Que dropper des enfants devant n'importe quel divertissement sans les encadrer, sans les éduquer, c'est peut-être ça qui a des impacts. Mm-hmm. Il dit, puis là j'ai traduit un peu là, de façon freestyle, là, je voulais être un traducteur, mais je voulais le mettre en français pour qu'on soit sûr de comprendre un peu le sens, mais il dit les robots, ils peuvent pas élever nos enfants. S'ils pouvaient, il n'y aurait jamais de miettes sur mon plancher. Je regarde mes garçons qui suivent le Roomba autour dans la cuisine depuis des années. Puis il finit avec un PS à l'article qui, je pense, qui va servir de conclusion autant à mon article qu'à ce segment. Il dit PS, je laisse pas mes enfants jouer à des jeux de tir à la première personne violents. Pas parce que je pense que ça va les faire devenir des sociopathes, mais plutôt parce que je comprends pas pourquoi tuer est considéré comme du divertissement.
Voilà. On pourrait partir de tout un autre débat à partir de là. Mais...
C'est pour un autre jour.
Donc, écoute, sur cette légèreté, je m'en vais en conclusion. Je vous avais teasé quelque chose en cours de route. Je vous, je vous, déploie ma surprise.
Mon Dieu, hashtag déployer sa surprise.
Il n'y a aucune volaille dans cette surprise. Oh. Je mets en place un petit concours, rien de gigantesque, mais un premier petit concours qui permettrait à ceux qui participeront de gagner le jeu Hotline Miami, dont j'ai parlé aujourd'hui. Bon petit jeu rétro pour ceux qui aiment le style.
Sur PC.
Oui, version PC. En fait, un code que j'enverrai par Steam pour les intéressés. Donc, tirage parmi tous ceux qui simplement nous auront fait parvenir un peu de feedback. Peu importe la plateforme, je vous donne une couple d'options sur Twitter, au twitter.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Sur iTunes, vous voulez aller commenter, laisser un commentaire et cliquer une des petites étoiles qui sont là. Donc, le tirage, je vais faire ça là, avec sous supervision d'une firme absolument magnifique de
Bonin Laporte Gravel.
Et voilà, c'est ça. À l'enregistrement plutôt du prochain podcast. Donc, dépendant de la date, là, je vais mettre une date limite pour recevoir les commentaires qui serait le 14 décembre. Ça laisse environ une semaine.
Les commentaires sont pas obligés d'être positifs.
Non, non.
Commentaires, feedback.
Oui, de vrai feedback. On veut essayer d'avoir le pouls des quelques personnes qui peuvent nous écouter. Pour pouvoir changer, améliorer, etc. Fait que feedback positif, négatif, le plus constructif possible. Puis on pige dans tout le monde qui a donné du feedback. Peut-être qu'on exclut les gens qui diront first. Mais ça, c'est à voir. Donc, sinon, pour le podcast, en finissant là-dessus, c'est aussi disponible sur Podomatic ou podomatic.com/divanquest. Bientôt sur notre site, divanquest.com. Vous pouvez passer maintenant par là, puis ça va vous rediriger vers, justement, la plateforme dont on parlait tantôt, avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com. Donc, sinon, iTunes, comme j'ai dit tantôt, cliquez les petites étoiles, là, ça va nous faire plaisir. Puis, on se voit dans 2 semaines.